Hey, bonjour tout le monde et bienvenue au 24e épisode de Divan Quest. Divan Quest, à ne pas confondre avec le déménagement de Jeff, sauf que là, on a vraiment envie d'être ici. Je suis Mathieu Bonin, toujours en compagnie de Danny Gravel.
Salut!
Et de Jean-François Laporte.
Yes!
Comment ça va les gars?
Raqué!
Ah,
parle-moi-en pas!
On met tout ce ton déménagement en dur. Qu'est-ce que vous avez fait de beau cette semaine, Dan?
Ben justement, je commence avec ça. Là. Je voulais finir avec ça, mais je vais commencer avec ça. J'ai joué hier à la game de Tetris la plus plate au monde avec Jeff.
C'est la version carton de Tetris.
Oui, c'est ça. C'est juste que quand tu fais des lignes, ça disparaît pas. Sinon, ben j'étais en semaine d'examen après les fins des classes annoncées dans le dernier épisode. Fait que j'ai joué au jeu de l'escalier.
Une chance qu'on l'a annoncé dans le dernier épisode parce que personne n'aurait été au courant.
C'est clair.
Ouais.
Tu l'entends ma voix déjà. Semaine passée. Donc, pour ceux qui connaissent pas le jeu de l'escalier, ça consiste à crisser tes copies d'examen en bas d'un escalier dans lequel tu as préalablement déterminé une note pour chacune des marches là, pour ensuite attribuer cette note-là aux copies. Bon. Mon école a juste un étage, là, fait que j'ai pas pu utiliser cette note-là. J'ai donc passé la majorité de mon temps à corriger vraiment les examens.
Il faudrait qu'il y ait un étudiant qui écoute le pod et fait juste comme « Je le savais qu'il faisait ça! Ils font tout ça! Je le savais!
» Sinon,
parce
quand même,
tout ce qu'il dit ici, c'est vrai. C'est la vérité.
Ben oui. Mm-hmm.
Jamais on n'oserait mentir, enregistrer. Ça pourrait être revenu contre nous.
Ceci est une joke.
Quand même un peu de gaming là. Maintenant que Matt m'a démasqué là, la dernière fois, pour ceux qui savent pas, ben, c'est à vous autres d'écouter l'outro. J'ai continué de jouer à WWE 2K16. Un petit match de lutte comme ça là, c'est une belle pause quand ton cerveau liquéfié veut sortir par tes narines pendant ta correction.
C'est le plus que tu peux demander.
C'est le plus que tu peux demander. Sinon, j'ai joué encore un peu à Overwatch. On s'en sort pas.
Nope.
Sinon, j'ai rejoué à Saints Row 4.
Hey.
Ça fait un petit bout de temps, puis c'est vraiment un plaisir renouvelé que de démolir des aliens avec des super pouvoirs, des bats en forme de dildo, puis un dubstep gun. Puis c'est pas mal ça. Les vacances commencent bientôt. Là. Je vais sûrement faire un petit tour dans mes injoués sur Steam, puis pendant les petits jours de pluie, puis avoir des nouveaux trucs à parler. Mais pour l'instant, c'est un peu de gaming de choses déjà faites.
Cool.
Toi, Matt?
Ça faisait longtemps que j'avais pas approcher un nouveau podcast. Puis il y a Papa Cassette qui a commencé le très originalement nommé, oui, c'est une phrase, Papa Cassette Podcast. Je trouvais ça intéressant.
C'est un podcast avec Papa Cassette?
Ouais, mais écoute, je sais pas qu'est-ce qui t'a donné cet indice-là.
Quelle surprise!
Ben, je sais bien.
Donc, c'est plus clair que Divan Quest quand même.
Je trouve ça excessivement clair. Non, ça, c'est un podcast où est-ce qu'il arrive avec un invité puis il parle beaucoup de... Ça parle pas tant de jeux. En tout cas, dans l'épisode 1, il n'y a pas de temps à parler de jeux, mais c'était des discussions intéressantes là, pour ceux qui sont dans communauté des collectionneurs rétro au Québec. Fait que je trouve ça intéressant. Très, très relax, très casual. Il n'y a pas de format, ça si on jase. Il y a des hints de vouloir mettre un format, là, mais ça s'arrête là. Bref, bon petit podcast pour ceux qui sont dans le rétro au Québec. Je vous le suggère. Très agréable à écouter. À part ça, j'ai joué à Neon Chrome sur PC, qui est disponible sur pas mal toutes les plateformes actuelles. Là, donc PS4, Xbox One et PC. Très, très bon petit top-down shooter avec des éléments roguelike. Donc, on joue twin-stick shooter. Les tableaux sont redéfinis à chaque game. Les tableaux sont tous designés, donc c'est pas un roguelike parce que tout est aléatoire. Mais les tableaux que tu vas rencontrer puis l'ordre dans lequel tu vas les rencontrer est régénéré à chaque fois. Super cyberpunk, si le nom vous donnait pas l'indice. C'est coloré, le thème est très, très fort dans le jeu. Très plaisant. Aussi, j'ai joué un petit peu à Battle Dome, un jeu en réalité virtuelle. C'est un petit peu... Présentement, il est très, très early access. Là, il est en développement. Mais c'est un... La meilleure façon de le décrire, c'est essayer d'adapter la formule Splatoon au VR. Ça marche très bien. Ça comble beaucoup des lacunes des jeux en VR présentement de par son format. Bref, ça exploite bien les faiblesses du VR comme une de ses forces. J'en parlerai pas plus longtemps parce que ça concerne pas beaucoup de monde présentement. Mais si vous avez un HTC Vive à la maison, checkez Battle Dome. Ça vaut la peine. Ouais, c'est ça. Si vous avez un HTC Vive à la maison, ben bonjour, on est trois.
Ça concerne peu de gens.
Pour les 17 personnes au Québec. Là.
Et voilà.
Puis... Appelle-le par son prénom sur le podcast. Ouais.
Non, c'est ça.
Hey Paul.
Top. Et également, pas du gaming par contre, mais en revenant du déménagement de Jeff hier, on s'est demandé, tu sais, c'est comme comment que Jeff va s'habituer à la vie de banlieue, ouais. Tu sais, lui qui était en ville. Jusqu'à tout récemment.
Mais on a compris en fait pourquoi il choisit ce coin-là.
Parce qu'on a, on était obligé d'arrêter, d'arrêter en pleine route, en essayant de rejoindre l'autoroute, parce qu'il y a un poulet qui traversait la rue. Alors, le retour du hashtag je suis coq, voilà. Quand tu es obligé de faire une halte traverse de Poula, tu sais que GF est chez lui.
Moi, j'étais crampé là, au volant de l'auto. Puis, t'as comme la madame qui allait chercher son courrier, puis que le poulet suivait, qui me regardait, genre, pourquoi t'arrêtes, man? Puis qu'elle a compris après que c'est parce qu'il y avait son poulet dans la rue.
Fais-tu son poulet?
Ben, j'imagine.
Oh, ouais, en fait, comme, qu'est-ce que tu fais là? Genre, je pense qu'elle est comme, retourne dans la maison, là. On prépare le souper, là, on va te tuer tantôt. Puis on va. Mais elle était vraiment comme flabbergassée, comme qu'est-ce qu'il veut, le gros dude barbu qui me regarde dans son SUV. Puis c'est comme, on te regarde pas, Chris,
on regarde le poulet
qui te suit.
C'est un signe du destin, pour vrai.
Un signe du destin. Voilà.
Puis toi, Jeff, à part les poulets du destin.
À part les poulets et le déménagement, et c'est sûr, bon, c'est une semaine passée dans les boîtes et dans empaqueter toutes mes avoirs. Mon Dieu, qu'on a beaucoup trop de choses. j'ai quand même trouvé un petit peu de temps pour jouer Overwatch à travers tout ça. Fait que la dernière chose que j'ai pactée, c'est mon PlayStation. Donc, il est resté jusqu'à la dernière heure avant d'être dans une boîte.
J'ai quand même réfléchi longtemps avant de le débarquer de mon auto là, hier.
C'est ce que j'ai confié à Danny pendant le voyagement. Tu sais comment je te fais confiance?
Eh oui, un PlayStation puis une TV, imagine.
Mais j'ai quand même pris le temps d'essayer un autre petit jeu parce que je me suis dit... Je faisais longtemps que j'avais pas joué à FTL, en fait.
Ouais.
Donc un jeu qu'on a tous beaucoup joué. Puis je me disais, il me semble que c'était porté sur iOS. J'ai voulu jouer. Finalement, c'est juste sur iPad. Il n'est pas sur iOS version téléphone, en fait. Là. Fait que je me souviens vers Pixel Starship, ce qui avait comme dans mes petites recherches sur Internet, était quand même bien coté. Qui est un genre de mélange entre FTL puis Tiny Tower, puis ces choses-là où tu construis toi, les petits bonhommes. Là.
Okay.
Donc, on a un peu l'esthétique de Tiny Tower, tous des petits bonhommes pixelisés, vraiment, vraiment...
Cute.
Ouais, minimaliste, là. Ouais. Où t'as un vaisseau, puis tu construis ton vaisseau avec des ascenseurs pour aller d'une pièce à l'autre. Ben, à ce moment-là, au lieu d'être des magasins, mais c'est vraiment... c'est la console de pilotage, les moteurs, les boucliers, tout ça. Puis tu gères le crew de ton vaisseau, puis tu peux agrandir ton vaisseau, puis modifier ton vaisseau, modifier tes armes, tout ça. Avec le petit côté FTL, où pour pouvoir avancer, mais il faut que tu aies quelqu'un dans l'engine room, sinon tu n'avanceras pas. Fait que faut que tu mènes ton ship. Puis tu as un des combats qui est intéressant du jeu, c'est que tu fais jouer contre d'autres joueurs cette fois-là. Donc, il y a un petit côté MMORPG où c'est un univers persistant, puis tu peux rencontrer d'autres joueurs avec leur autre vaisseau. Tu peux faire du truck, tu peux les combattre, tu peux être un pirate, tu peux faire ce que tu veux finalement. Fait qu'il y a quand même beaucoup de profondeur pour ce petit jeu-là. J'ai pas mis énormément de temps pour raison de boîte, mais j'ai clairement un jeu que je vais continuer à jouer. Puis je vous invite à jeter un coup d'œil si vous étiez fan de FTL dans le temps.
iOS, Steam, mais malheureusement pas Android. Mais peut-être pour l'instant.
C'est Starship, même.
Okay.
Sniff.
Mais en gros, c'était ma semaine.
OK. Fait que maintenant qu'on a fait notre tour de l'actualité, on va annoncer le thème de cette semaine.
Ben oui, hein, en cette journée du 4 juillet.
Fait que oui, on célèbre la journée de l'indépendance américaine. On s'entend, là, vite dit, là. Parler des jeux.
Célébrer.
Oh, c'est ça.
Maintenant qu'on s'est amusé autour du thème.
Alors, dans l'actualité cette semaine, le site La Verge nous annonçait que le câble Internet transpacifique entrait en activité le 30 juin dernier. Ce câble gigantesque, financé en partie par Google, passe sous l'eau et connecte le Japon aux États-Unis, totalisant une distance de 9000 km. Parce qu'il ne va pas strictement en ligne droite, il y a plusieurs autres points de connexion sur le câble.
Il fait une bonne heure d'avoir un câble de 35 pieds, moi, chez nous, pour l'ordi déconnecté du routeur.
Ouais, c'est juste un catégorie 5 bleu là, qui ont passé en dessous de l'eau. Puis,
ils ont mis un petit peu de sol par-dessus, dans le fond. Là.
Il y a une coupe d'union, là, un petit bout en plastique que tu mets deux fils après. Là. Puis ça a fait le job. Plusieurs compagnies ont financé le projet, mais NEC, une compagnie de réseautique japonaise, a aidé à la construction du câble et à sa mise en ligne. Le projet a été nommé Faster, donc plus vite, nom assez apte considérant qu'il utilise de la fibre optique à faible perte pour transférer 60 terabits par seconde de données. Fait que non, je pense que c'est pas un catégorie 5 bleu.
Non, c'est plus vite que l'Internet de Saint-Félix.
Tu dis?
Selon un communiqué de presse d'un des membres du comité de gestion de Faster, Hiromitsu Todokoro, le nom du projet viendrait, et je cite, « Depuis le tout début du projet, nous nous sommes répétés les uns aux autres plus vite et plus vite. » Me laissant croire que le plus clair du projet a probablement été passé à regarder de la porn plutôt qu'à travailler.
C'est ce que je me disais aussi.
Voilà. Fait que si 2016 a été... c'est une autre nouvelle, OK? Si 2016 a été l'année d'autre chose dans les domaines technologiques que de la réalité virtuelle, c'est sûrement des chatbots. Les chatbots sont des intelligences artificielles qui tentent d'interagir avec un utilisateur en comprenant ce que ce dernier a écrit. J'ai déjà parlé de Tay, le Twitterbot de Microsoft, qui
est
un
succès.
Franc succès. Ou terrible exemple de cette idée. Là. Prenez ça comme vous voulez.
Ça dépend de ton point de vue.
Bon, c'est ça, si tu fais des news pour un podcast, franc succès. Mais il y a d'autres exemples plus qui ont porté fruit, en fait, qui ont vraiment été utiles. Dans une entrevue avec Medium, le jeune entrepreneur britannique Josh Browder nous apprenait que son chatbot Do Not Pay avait permis de contester avec succès 160 000 tickets de parking à Londres.
Wow.
Les utilisateurs textent en wush wush, okay, avec le système qui leur permet de déterminer s'ils ont un motif valide à contester et génère un dossier d'appel qui peut ensuite être envoyé directement à la cour, tout ça sans devoir payer des frais d'avocat. Il n'y a aucune joke ici, là. C'est juste badass. Là. L'entrepreneur compte étendre les services à la ville de Seattle aussi cet automne, puis offrir d'autres services qui vont simplifier d'autres procédures légales. Fait qu'un gros shout-out à Mr. Josh Browder.
Vraiment.
Dans le plus récent jeu de la série Lego Star Wars, donc Lego Star Wars The Force Awakens, disponible sur pas mal toutes les plateformes imaginables ever depuis le 28.
Force Awakens, je ne connais pas.
Pas entendu parler?
Non, pas entendu parler.
Ben écoute, la nouvelle n'est pas pour toi.
Tu écouteras le podcast qu'on a parlé l'autre fois.
dans ce jeu-là, finalement, le réalisateur J.J. Abrams et la présidente de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, sont disponibles en tant que personnages jouables. C'est rien de nouveau dans la série là, des jeux Lego. Parce qu'on a eu des caméos de genre en commençant, ou peut-être même un peu avant, en fait, mais dans Lego Batman 3, on a eu Kevin Smith, le podcaster et réalisateur, dans cet ordre-là, à cette heure, honnêtement, là, qui était avec Adam West dans Lego Batman 3, et Steven Spielberg et Colin Trevorrow, qui faisaient leur apparition dans Lego Jurassic World. Le personnage de J.J. Abrams dans le nouveau jeu, quand il est debout sur place à rien faire, ben, il place ses mains pour faire une forme de cadre, comme s'il visualisait un plan de caméra, les bougeant de côté pour ensuite mimer une explosion. Mais malheureusement, il n'y a aucune attaque spéciale Star Trek ou ce qui remplit l'écran de Lens Flare pendant 2 heures. le 30 juin dernier marquait le lancement en Chine du jeu Pocket All-Star Smash Bros. Un RPG mobile tour par tour basé sur un système de collection de cartes et d'amélioration de personnages. Le jeu est présenté en 2D avec des beaux gros personnages colorés et animés, tous tirés de la populaire série Super Smash Bros.
Sûrement avec des licences légales et tout. Là.
Et voilà. Fait que le seul hic de cette histoire, c'est qu'évidemment, il s'agit d'un jeu non autorisé par Nintendo, donc d'un jeu pirate. Do what you want, cause a pirate is free.
You are a pirate. Ah, c'est bien.
Faisait longtemps.
Faisait longtemps.
les jeux clones et ou pirates là, sont monnaie courante en Chine. Et Nintendo est toujours une cible de choix pour des raisons évidentes. La semaine d'avant, un jeu mobile reprenait le jeu Splatoon quasiment intégralement. Mais on apprenait également la sortie d'un podcast chinois, Shafa Chang des Écuis, que je prononce tout croche, parce que ça veut dire, qui se traduit sommairement par « La poursuite sur le canapé ». Podcast où trois Chinois discutent de jeux rip-off chinois, de toutou cheap de League of Legends en vente sur AliExpress et qui se pensent drôles. Saviez-vous d'ailleurs que selon le calendrier chinois, 2017 allait être l'année du coq de feu?
Oh!
Oh, oh yes!
Encore un retour du hashtag Je suis coq. Le journal
de Montréal. Créchubin. Contient de l'écrapaud.
Je l'avoue. Oh. J'ai perdu la foi.
En l'humanité.
En fait, j'ai surtout perdu l'envie de fouiller des centaines de commentaires insignifiants ou juste méchants pour essayer d'en trouver des comiques. Là. Donc, je passe en phase d'essai. Hein, je me cherche, si on veut.
Pour t'as annulé ton account Reddit?
Mais non.
Oh, Journal de Montréal!
Ah oui, Journal de Montréal. Je me cherche, si on veut, justement, pour me trouver un segment intéressant pour remplacer le Journal de Montréal parce que, à un moment donné, là, c'est ça. proche de la dépression. Là.
Puis pourtant, tu t'enseignes à des jeunes en semaine longue.
Non, mais non, c'est pas comparable. Donc, comme souvent, quand je suis en quête d'inspiration, je procrastine, je me ramasse sur Reddit. Donc, j'ai pas annulé mon account. Reddit, hein, qui peut être une si belle communauté, on l'a vu des fois dans des réflexions de Jeff, mais un endroit aussi dans lequel on retrouve pas mal des fois n'importe quoi. Donc, cette semaine, j'ai décidé, en tout cas pour cette semaine, de trouver des trucs amusants dans des recoins sombres de Reddit. On pourrait parler même du côté obscur des internets web.
Something, something, something dark side.
Contient de l'écriture.
Je peux pas m'en passer. Nice. C'est même bien. Donc, cette semaine, je me suis ramassé sur un sous-Reddit qui s'appelle AMA Disasters. Pour ceux qui sont moins familiers avec Reddit, un AMA, c'est un Ask Me Anything, donc un post dans lequel le posteur original, généralement une personne connue, un expert dans un domaine ou l'initiateur de quelque chose, un mouvement, bref, quelqu'un à qui des gens aimeraient poser des questions, va dire au redditeur de lui poser des questions auxquelles il va tenter de répondre, oui. Dans certains cas, il peut répondre à tout, dans d'autres, c'est plus difficile, là, dépendant de qui pose les questions. Il peut y en avoir beaucoup. Pour vous donner une idée, le Telegraph a recensé l'année passée 8 AMA qu'il faut lire. Là. Puis on passe de genre Jerry Seinfeld à Barack Obama, en passant par un d'autre qui a sauvé une fille de la noyade, puis qui s'est fait pour ensuite poursuivre par la fille. America.
Ah, c'est avec le terme.
Oh, oui, c'est avec le terme. Ouais. Bref, tout ça pour dire que je suis tombé sur le sous-reddit AMA Disasters, dans lequel les redditeurs vont recenser des AMA qui vont pas bien pour une foule de raisons. J'en ai identifié deux, là, cette fois-ci, qui sont particulièrement amusants. Fait que peut-être qu'un jour, ça pourra revenir aussi. J'aurai un thème. Le premier que j'ai trouvé est quand même relativement récent, une vingtaine de jours. C'est un restaurateur qui a décidé de donner son restaurant. Puis là, comprenez qu'il y a beaucoup de guillemets dans tout ce que je vais dire. Fait que je les ferai pas à chaque fois parce que ça va être fini. Mais dans mon texte, je les ai mis. Fait que ouais. Donc, de donner son restaurant plus 25 000 piastres à une personne qui serait choisie par son staff et ses clients. C'est comme son point de départ. Il se part un AMA avec son gérant pour répondre aux questions que les gens pourraient avoir par rapport à son projet. C'est pas très long que nos fins limiers de Reddit vont découvrir la crosse.
Ah! Ah! Fabuleux prix.
Le dude vend des participations à son concours, 150$ chacune, puis demande qu'il y ait au moins 6000 participants pour pouvoir faire le dit concours. C'est raison, être certain de laisser un restaurant qui serait sans dette aux gagnants. Le redditeur... je vais le dire comme ça, là, Lucky 13, parce qu'il y a comme des lettres, des chiffres mêlés. A fait un calcul pour nous. 150 fois 6 000, ça fait 900 000. Enlève 25 000 piastres pour le prix, il reste 875 000. Selon notre éditeur, là, qui est allé chercher des informations plus précises qu'une approximation du premier, il est allé vérifier JP Fort que la propriété vaudrait là, 266 700 au dernier rapport d'impôt, genre le restaurant. Fait qu'il te reste 596 000. Enlève un autre 100 000, qui serait à peu près le prix pour équiper une bonne cuisine de resto là, solide. Fait qu'il te reste 496 pour couvrir tous les autres frais, là, mettons notaire, transfert de propriété. On s'entend qu'il y a un solide profit. Là. Fait que le dos se fait ramasser là, par les internets webnotes là, pour sa loterie déguisée, puis possiblement même pas légale. Il va finir par se défendre le gars en disant que la dernière évaluation de sa business, puis c'était avant la construction d'un patio, là, parce que ça a l'air qu'il y a un patio, ça... c'était 425 000. Fait que ça, c'est l'évaluation qui a été faite.
Fait que tout le monde, ça avait une maison à vendre? Bon, tu sais, vous impatient.
Ouais, ça, écoute. Fait que si on fait un peu de maths, là, avec ses chiffres à lui, là, ben 900 000 moins 425 000 moins l'autre 25 000 qu'il donne, il reste encore 450 000 de profit, là. Puis en plus, il semblerait que dans l'éventualité, parce que là, tu sais, écoute, le monde sur Reddit, ça se met à fouiller, là, puis ça va chercher tous les petits détails, là. S'il vend pas ses 6 000 billets, il se garde quand même 25 piastres de billets par billet pour les frais, j'imagine.
Oh mon Dieu, Seigneur.
Vraiment, le gars a des contacts avec un prince du Nigeria, là, ça se peut pas. Fait que beau travail, champion.
Un prince à New York.
Ouais. Ouais. J'ai quand même trouvé pas pire. Puis écoute, il se fait ramasser. Puis c'est là que tu dis que Reddit a des bons puis des mauvais côtés. T'as le cas avec son concours, mais t'as le monde qui font comme t'es cas avec ton concours.
Y avait-tu des photos de son restaurant?
Peut-être en fouillant, là, j'ai pas pris le temps. Là.
Parce qu'il y a peut-être même pas de restaurant. Je veux dire, il n'empêche d'acheter un restaurant avec.
Ben, il y avait l'air de mettre des liens vers des preuves et tout ça. Fait que j'imagine qu'à quelque part, ça devrait exister parce que sinon, tu peux avoir des gros problèmes. Là. Mais tu sais, même à ça. Là.
Ouais, le profit attendu est suffisant.
Tu sais, le gars, son restaurant marche peut-être pas super bien. Puis tu vends une merde que dans 5 ans, tu sais, t'as beau donner 25 000 piastres si ton restaurant, il tank 50 000 par année en dette. Là, voilà.
Champion.
Sinon, il y a un mois à peu près, il y a eu un AMA de Steven Seagal.
You bastards come into our village and kill our fish, pollute our water. I'm gonna send you back to hell where you belong.
Ha ha ha!
Mais je suis content que t'en parles parce que dès que t'as dit que t'allais parler des AMA
Disasters,
je suis convaincu que c'est Steven Seagal.
Moi, je suis surtout content parce qu'on est rendu qu'un drop de Steven Seagal.
De Steven Seagal dans la saison 2 de Family Guy, un de mes premiers épisodes de Family Guy.
Ouais, c'était donc bien intéressant.
Non. Donc, il s'en vient sur Reddit faire la promo pour son nouveau film. A peut-être mal choisi la manière de faire. Hein, rapidement, ça déraille, mais ridiculement. Là, les redditeurs se mettent à poser des questions qui n'ont pas de bon sens. Surtout considérant qu'il a arrêté de répondre après 20 minutes. Là.
Aïe, aïe.
Fait que ça dérape. Là. Genre, quelques questions là, que je note en rafale. De quelle couleur étaient tes pantalons quand Jean Lebel t'a étouffé jusqu'à te faire perdre conscience et que t'as chié dans tes culottes? Les réponses, c'est pas payé. Il y en a un qui dit ben, il était sûrement brune, t'sais, on n'a pas rien vu. L'autre qui disait oh, non, il était bourgogne, il avait bu du jus de betterave. Quoi, t'sais. Les questions et réponses sont bonnes. J'ai entendu dire que tu bloquais des scènes dans tes films pour rester assis le plus longtemps possible parce que t'es paresseux. Est-ce que c'est vrai? Quelqu'un qui dit « Faites tes propres cascades. » Mais non, c'est une joke, tout le monde s'en fout. Il y a un qui dit « Hey Steve, qu'est-ce qui s'est passé réellement pendant ton kidnapping par la famille Gambino en 2001? » Il y a eu une affaire là, dans ces années-là où est-ce qu'il est allé comme en cours témoigner contre une famille de mafia en disant qu'il s'était fait offrir de l'argent pour faire des films pour eux autres. Parce que l'affaire weird où est-ce qu'il est vraiment comme dit qu'il avait été même kidnappé ou quelque chose comme ça. Là. J'ai pas fouillé.
Bref, il n'y a pas le goût de répondre à ça.
Puis quelqu'un qui répond, il y a quelqu'un qui fait un faux compte, clairement juste pour répondre à ça, là, qui est Steven Seagal, The Official, avec un L de trop, genre. Puis qui dit, ils m'ont pris 700 000 et ma virginité de porte arrière. quelqu'un qui pose la question, qu'est-ce qui se passe avec la poursuite pour esclavagisme sexuel?
Ouais, ben c'est ça que j'attendais. Moi, je suis sûr que c'est une mauvaise idée à cause de tout
ben,
ça.
Ben c'est ça. Quelqu'un d'autre qui demande, quelle est la chose la plus bizarre que tu as fait avec tes esclaves sexuels russes? Il y en a un qui dit, Jean-Claude Van Damme a récemment dit qu'il te démolirait dans une bataille d'arts martiaux. Quelle est ta réponse? Donc, pas besoin de vous dire là, que ces questions-là n'ont eu aucune réponse. Puis il y a même un gars qui dit avoir été un assistant de M. Seagal avant, puis qu'il dit que c'est, je paraphrase en traduisant, abso-fucking-lument impossible. Ça se traduit mal. Oui. Que ce soit lui qui a été présent, là, que ce soit Steven Seagal qui était là, ou même proche d'un ordinateur pour le AMA, il doute fort qu'on aurait une réponse légitime aux questions, même si c'était lui qui était là. C'est certain.
Et pourtant, les modérateurs, faut que tu prouves que c'est toi, puis faut que tu envoies du. Avant de pouvoir poster un AMA, tu dois prouver que tu es vraiment là, puis c'est toi qui participes. Mm-hmm. Les modérateurs vont bloquer ton post si tu le fais pas.
Ouais, mais il y a peut-être donné, tu sais.
Il a peut-être donné les preuves suffisantes, puis après ça, fuck off.
Sérieusement, Reddit, c'est probablement la pire place pour tenter de bullshitter sur Internet. Puis si tu essaies quand même, c'est toi qui vas finir par passer pour une dinde.
Il y a une bibite noire dans le salon.
Céline Poulin est encore sous le choc de l'entrée fracassante d'un dindon sauvage à l'intérieur de sa résidence du secteur Templeton.
Tu veux pas me faire ça?
C'est déjà intéressé. Moi, je fais tirer mon char. Je vends des billets de tirage 100 piastres chaque. Je dois en vendre au moins 1000, sinon je fais pas de tirage. Si j'en vends pas 1000, je garde 10 piastres par billet. Puis si vous êtes intéressé, grosse_arnaque@caramel.com.
Fait que cette semaine, on a un thème America, un thème américain.
America.
Fait que j'ai retrouvé un jeu qui avait passé, là, une couple.
Une couple?
C'est l'accent anglophone.
Ouais, c'est ça.
C'est mon côté plateau qui ressort. Je m'en suis pas encore débarrassé au complet.
Il sort par moton.
J'ai retrouvé un jeu que j'avais téléchargé qui a passé dans les jeux gratuits là, sur PlayStation Plus qui s'appelait Broforce. Donc aujourd'hui, on parle de Broforce.
Oh yeah.
Faut absolument le dire comme ça, je pense. Hein.
Oh yeah.
Fait que tout le long du segment, on check,
alright. Donc, Broforce. C'est un jeu qui a été développé par Free Lives et publié par Devolver. Devolver qui ont publié là, toute une panoplie de jeux assez connus et assez.
Incluant Ronin, ouais. Dont Danny a parlé récemment.
C'est d'ailleurs le premier jeu du développeur Free Lives, en fait, ce qui est, quand on va sur le site de Broforce,
ça va être long.
Quand on va sur le site du jeu, il y a comme une. J'ai cherché un site du développeur pour voir c'était qui, qu'est-ce qu'il avait fait d'autre. Ils n'ont pas de site web, ils n'ont presque aucune présence sur le web, mais ils ont un paragraphe au bas du site du jeu, Broforce. Puis je l'ai traduit parce que c'était vraiment intéressant. Ça dit, les développeurs de Free Life se décrivent comme des tortues anthropomorphiques dirigées par le tout aussi anthropomorphique Sensei, rapporteur de Bard, avec l'aide duquel ils ont développé et perfectionnent leur art du Game Jam Jitsu pour combattre les contes, les pantalons, les saignants maléfiques et les envahisseurs extraterrestres. Donc, c'est ces gens-là qui ont fait.
On en sait beaucoup plus sur eux maintenant.
Donc, dans.
Pour les Ninja Turtles.
Dans Bro Force, on incarne un bro. un bro qui est un commando de style de héros d'action hyper masculinisé, dont l'objectif c'est de parcourir le monde pour libérer des otages. Il faut ensuite éliminer le boss de chaque niveau qui a l'apparence du diable, incidemment, et de s'échapper en hélicoptère pendant que le reste du niveau explose derrière nous. Le tout dans un jeu avec un gameplay semblable à celui de Contra, donc un jeu de tir en deux dimensions dans lequel on meurt si jamais on se fait atteindre une seule fois par un tir ennemi. Somme tout, au niveau des mécaniques, on est très proche de Contra, de ce style de jeu-là, là, deux dimensions, side-scroller,
shooter,
exactement. Ça serait assez standard si c'était pas de deux éléments qui démarquent le jeu, les bros et les explosions.
Les brogelins. Brogins? OK.
Ouais.
Ouais.
Donc, on commence par parler des bros. Les bros.
Pas des brogins?
Après.
OK.
Donc, à chaque début de niveau, ou à chaque fois qu'on respawn après être mort, en fait, le jeu nous place aux commandes d'un personnage différent, donc d'un bros différent. Puis chacun de ces personnages-là est une sorte de caricature des personnages de films d'action des années 80-90.
Nice.
Je vous en nomme quelques-uns.
Yes.
La liste est très longue, mais j'en nomme quelques-uns. Le premier, c'est le personnage avec lequel on débute le jeu, qui est évidemment Rambro.
Facile, mais savoureux.
Donc, puis tout un petit look là, pixelisé, sprite art là, de ces personnages-là. Puis ils ont tout aussi en bas où tu vois ta vie, puis les munitions, les grenades qui te restent. Ils ont tout un visage un peu comme dans les Doom, puis Duke Nukem du temps. Là. Uh-huh. Puis quand tu marches, il réagit, ou quand tu tires, il fait des faces, il fait des expressions. C'est écœurant. Donc, Rambro, avec lequel on commence. On débloque rapidement le deuxième personnage qui est Brohard. S'ensuit après ça, McBrover.
Ah, nice.
McBrover qui est super le fun, il n'y a pas de gun. Il lance des dynamites. Ça change toute la perspective du jeu. Et ils ont toute une grenade qui est comme une attaque spéciale plutôt que tu peux faire là, à deux ou trois reprises par vie. Et McBrover lance un poulet avec la dynamite dans le cul.
Dit-il avec tout le sérieux du monde. Alors, un poulet avec la dynamite dans le cul.
Voilà, c'est normal. Je fais ça tous les jours.
McBrover. Pas très longtemps après, on va finir par débloquer Snake Broskin.
Nice.
Il a dû le prononcer. Robocop. Lui, il est malade. Et je sais pas s'il fallait que je le dise. Je vais pas en nommer trop parce que c'est vraiment le plaisir du jeu de découvrir les personnages. Je trouvais l'air sérieux. Madame ma blonde, là, je criais et je pleurais de joie toutes les fois qu'il y en a un nouveau qui arrive.
Ça ne regarde pas ça.
Ça arrive tout le temps.
Mais lui, je peux pas m'en empêcher de le mettre dans la liste parce que c'est un des derniers. Je ne me suis pas rendu là. Je pense que c'est le dernier ou l'avant-dernier qu'on débarre. Et c'est The Broketeer. Donc, pour ceux qui connaissent mon amour pour le Rocketeer, ce film. Sous-évalué, sous-apprécié.
Je pense qu'on n'allait pas parler sur le podcast.
Oui, ben on en parlera peut-être un jour. Qui sait? La team des bros est d'ailleurs dirigée par un directeur spécial qui répond au nom de Nelson Brodella.
Oh. Aïe, ils ont fait un bro de Nelson Mandela.
Ouais, c'est ça.
C'est un peu out of character, il me semble.
Tout est out of character.
On pourrait répondre...
Hein? Merci.
Les fameuses explosions ou les explosions.
Ah, c'est bon, c'est mieux.
Ah, c'est
bon.
Explosions.
Ouais.
En fait, les différentes attaques des joueurs, les grenades, les barils explosifs et les ennemis kamikazes,
les poulets,
ça l'entoure le jeu d'une sorte de brouillard de destruction pixelisée.
On dirait de Michael Brayard.
Oh.
C'est un brouillard de
Michael Bro.
Michael Bro. Réalisé par Michael Bro.
Ou Bro B.
Non.
Non, mais pour être toutes les explosions qui arrivent sans arrêt dans le jeu, ça avait un genre de brouillard de destruction pixelisé à travers tout le jeu. Ça lui donnait un côté totalement déjanté à ce jeu-là. Puis sans jamais filer gratuit, on meurt régulièrement sans comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Tout ce que tu sais, c'est que ton erreur, c'était de foncer dans le top, d'être un petit peu trop aveuglément. Mais le retour au jeu est super rapide. Puis ça permet d'apprécier en fait, de l'ampleur de la destruction pour son petit côté fou un petit peu, sans jamais avoir l'impression que le jeu te punit réellement de quoi que ce soit. Mais c'est déjanté, là. Tu sais pas ce qui se passe, surtout si tu joues à deux joueurs. Là, t'es deux à tout détruire, les ennemis sautent sur toi, les explosions, les hélicoptères, les fusées, les missiles, les dynamites, ça...
Les poulets.
Mais, puis au point
il y a beaucoup de destruction porn.
Énormément. en version 8-bit.
Bien sûr.
Puis le jeu, c'est... toute la map peut être détruite. C'est un peu comme dans Worms. Finalement, tu peux creuser avec tes guns dans le sol pour te faire un chemin. Et régulièrement, la meilleure tactique, c'est d'ailleurs de passer en dessous. Mais les explosions, régulièrement, si tu fais pas attention à ce que tu fais, puis tu laisses les ennemis juste comme t'attaquer, mais ils vont détruire le niveau à un point tel que tu peux plus procéder parce que tu peux pas sauter les gaps d'un côté à l'autre. T'es obligé de mourir et de recommencer.
Ah, c'est dégueulasse. Hein?
Donc, il y a vraiment beaucoup de destruction. Le thème America, c'est présent partout à travers le jeu, au point d'en être poussé à la parodie. On est accueilli à la fin de chaque niveau par un Area Liberated. Oh. Avec une animation du drapeau américain à travers le lettrage.
C'est sûr.
Toutes les missions sont une parodie des grandes guerres américaines avec des descriptions qui nous ramènent au thème des bros. Par exemple, Nelson Brodola qui introduit chacune des missions avec un genre de petit speech comme ton mission statement, c'est comme deux phrases de Nelson Brodola, justement. Par exemple, quand il va dire « This is Cambodia, but it will soon be known as Cambrodia.
» Hey,
c'est sérieux, c'est écœurant, parce qu'il manque pas le thème. Là, c'est...
non, ça sort dedans à fond. Pour vrai, ça a été une agréable surprise, ce jeu-là. Je me suis lancé dans l'expérience de Broforce, sans trop savoir à quoi m'attendre. Puis j'avais pas vraiment suivi le développement du jeu. Fait que j'avais aucune idée c'était quoi. Là, je pense que c'est toi, Matt, qui a dit comment on pourrait parler de Broforce. Mm-hmm. Puis j'ai vu que je l'avais. J'ai dit go, j'en parle. J'avais aucune idée c'était quoi. Quelle surprise j'ai eue. Après avoir.
Je pensais que c'était un jeu de stratégie comme de chèque.
Bro chess.
Ou chess bro.
Mais même. Le jeu est super attrayant, puis tu peux pas embarquer dans le jeu-là. Si tu passes devant la TV, tu t'assises, tu prends une manette. Le jeu est fait pour ça, c'est pick up and play. Tu prends une manette, t'as log, tu fais carré, t'apparais dans le jeu tout de suite.
Tu prends une manette, t'as pété en deux.
Explose, bon.
Après
tu libères ton salon.
Liberate.
Ouais, je te dirais que le salon à Jeff hier, il avait l'air pas mal libéré. On est parti.
On l'a envahi plutôt.
C'était pas lequel.
Après, on m'a vu là, explorer les premiers niveaux. Ma blonde là, s'est assise du divan, pris une manette. Puis les plans cinéma de la soirée sont vite tombés à l'eau. Là. On est rapidement tombé dans le piège du juste un niveau de plus pour déverrouiller le prochain Bros parce que tu veux savoir c'est quoi la prochaine parodie qu'ils vont t'amener. Il y en a tellement que je vous ai pas dit. Allez, ça vaut la peine juste pour les voir. Le jeu commence assez facilement. Au début, je suis un petit peu tanné. C'est comme c'était vraiment simple. C'est assez enfantin. Les ennemis sont pas très agressifs. Puis rapidement, tu te rends compte que c'est parce qu'ils t'apprennent les mécaniques, qu'ils t'apprennent à comment le jeu fonctionne. Puis finalement, ils t'apprennent à être puni lentement à travers le jeu. Parce que le niveau de difficulté augmente assez rapidement.
Mais qu'une progression quand même qui te permet d'apprendre un peu les mécaniques.
Je dirais les 3-4 premiers niveaux, c'est super facile, puis après ça, tu tombes dans le gras du jeu pour
ça
vrai.
Ça progresse pas tant que ça. C'est...
Dans le gras de cheeseburger double du 4 juillet. Là.
Tu tombes dans l'huile de cheese.
Du double down de PFK. Là. Ah. Ouais.
C'est poilu. Là.
Tu libres.
Comme un double down de PFK, ça fait 3 ans que ça existe plus.
Tu libérates un chicken dans sa panure.
Les vies supplémentaires dans le jeu sont acquises quand on libère les otages. Il y a tout le temps comme des cages et des prisonniers. Puis quand on libère un nombre variable d'otages, genre entre 6 et 8, ça déverrouille le prochain Bros finalement. Donc, la fois que tu libères un otage, ça donne une vie. Puis le fait qu'à toute fois qu'on meurt, on respawn avec un nouveau Bros, un différent. Fait que tu peux pas choisir, tu sais jamais qui tu vas jouer. Fait que faut que tu adaptes ton style de jeu à chaque occasion. Fait que c'est arrivé des fois où. Ça va super bien, un tableau difficile là. Ça fait 3-4 fois qu'on passe au travers, puis là on a eu un bon setup, on a spawné avec deux bros qui vont super bien, comme ton Men in Bro, Bro Black, je sais pas comment il s'appelle, qui a les mini criquets,
ah oui,
lui qui a assez d'instructeurs. Ça va super bien, t'arrives au boss de fin, puis le boss de fin il tue, puis là il te remet McBrover avec ses dynamites,
puis son poulet,
puis tu te bats contre un tank avec des, c'est un stealth tank là. C'est un tank avec des broussailles dessus. Puis là, tu sais comment? Là, il faut trouver une stratégie différente pour le
c'est
vin.
C'est cool, par exemple. C'est
Mais c'est super le fun. Ça donne un niveau de refaire le même tableau, c'est jamais plate, parce que c'est jamais pareil. Ça change tout le temps. Il y a toute une dimension multijoueur compétitive aussi que j'ai pas testé, mais où il y a du deathmatch entre les joueurs. Ça doit être mon gars avec la destruction que ça amène dans les tableaux. Si les gens veulent. Les tableaux. Si on a des bros de Divan Quest qui veulent essayer le jeu, il y a un démo qui est disponible sur le site web qui s'appelle le Brototype. qui est pas le jeu, mais qui est les mécaniques du jeu dans un environnement différent.
Mais il y avait pas aussi le jeu The Expendables Bros qui est gratuit?
Ouais, mais qui est semblable un petit peu. Effectivement.
C'était un jeu qui était fait pour la promotion du dernier Expendables, puis qu'ils ont donné.
Il, je pense que c'est une expansion au jeu qu'ils ont donné. C'est une expansion à Broforce, je pense.
On confirmera ça.
On confirmera. Mais je sais que sur la version PlayStation 4, il n'y avait pas ce contenu-là dedans.
OK.
Mais il y avait d'autres contenus. Il y avait, la deuxième expansion était là, mais pas le contenu des Expendables. Donc, avec tout ça, je vais donner à Broforce... Broforce.
Merci.
Quatre pattes de divan, des abdos en six-pack, puis un fist bump, le tout avec un hymne américain en trame de fond avec un cri d'aigle au loin.
Oui!
Je pense que c'est adéquat.
Avant d'embarquer dans le aujourd'hui dans l'univers de Divan Quest, là, on vérifiait, puis The Expendables Bros, c'est un jeu gratuit là, qui utilise la même mécanique, là, mais en...
Disponible sur Steam.
Oui, avec un petit icône en dessous, acheter Broforce, là, mais le jeu comme tel, lui, il est gratuit.
Rigueur.
Oui. Donc, 4 juillet, hein, on l'a dit tantôt, journée de l'indépendance américaine. Je commence avec 1634. Donc, en 1634, fondation de la ville de Trois-Rivières, en Nouvelle-France, par La Violette. Hein, Trois-Rivières qui devrait avoir honte parce que son nom repose sur une illusion. Les premiers explorateurs ont remarqué à l'emplacement où serait plus tard fondée la ville que Trois-Rivières se jetaient dans le fleuve, d'où le nom. Alors qu'en fait, ce sont trois chenaux de la seule et unique rivière Saint-Maurice. Puis après ça, on dit que notre génération ne fait les choses qu'à moitié.
c'est un burn un petit peu en retard.
Ouais, oui.
Eux, ils l'ont fait au tiers.
Il manque un rimshot. Merci. 1776, déclaration d'indépendance des États-Unis d'Amérique, où les 13 colonies de l'époque font sécession contre la monarchie britannique de l'époque. On raconte que pour vaincre les Anglais, les révolutionnaires ont caché un virus informatique dans un chariot britannique pour détruire leur barricade, pour ensuite, ensuite faire exploser le chariot avec un gros baril de poudre noire. Ou en tout cas, peut-être que je mélange deux choses qui s'appellent Independence Day. Là. C'est possible.
C'est dur, ce Google. Hein? Tout sort.
Tout sort. Ça, mélange. Hein? 1826, décès de Thomas Jefferson, troisième président des États-Unis et un des rédacteurs de la Déclaration d'indépendance. Généralement, je ne parle pas trop des décès dans mes dates, mais c'était quand même drôle de voir que le dude qui l'a écrit meurt la même journée. Ben drôle, c'est pas drôle qu'il est mort. Là. Ah. 1946, changeons de sujet. Avant d'avoir les poursuites de sa descendance. 1946, les Philippines obtiennent leur indépendance des États-Unis. C'est juste moi où on dirait que c'est arrangé cette affaire-là, que ça arrive la journée exacte de l'indépendance des
Américains.
1956, les programmeurs informatiques obtiennent leur indépendance des cartes perforées. Ben, plus exactement, on ajoute à l'ordinateur Whirlwind du MIT la possibilité d'entrer des données directement par clavier. C'est un des premiers qui permettait de laisser tomber les cartes perforées. Donc, une autre Independence Day.
Vive l'indépendance.
1984, sortie du jeu Donkey Kong 3 au NES au Japon. Tu sais, le jeu là où Donkey Kong est rentré dans ta serre et tu dois l'empêcher de réveiller des insectes en y tirant du off dans le péteux, là.
C'est une bonne description quand même.
Quand même. 1994, fin du génocide du Rwanda. L'humanité peut recommencer à croire en elle-même pour malheureusement si peu de temps. J'avance en 96. Sabir Bhatia et Jack Smith lancent un service web dont le nom est basé sur le langage HTML, le service Hotmail. Le service sera acheté quelques années plus tard par Microsoft. 2012. Annonce par le CERN, le Conseil européen pour la recherche nucléaire, de la découverte du boson de Higgs. Le boson est en fait une particule élémentaire qui permet d'expliquer certains phénomènes de la physique des particules. J'irai quand même pas plus loin que ça, là. On en aurait pour plusieurs heures. Lors de la conférence de presse, le CERN explique que le degré de confiance en la découverte est de 99,99997%. Tu sais, quand je dis à mes élèves que c'est important de ne pas arrondir trop vite, là, ben c'est pour ça. Hein? C'est pas 100%. Puis sérieusement, ça paraît que c'est une journée fériée aux États-Unis. Il n'y a pas grand-chose qui s'est passé. Des sorties de jeu, il y en a très peu. Je vais quand même avec...
Happy birthday to you.
En 1979, un certain Steve, plus connu simplement sous son nom de famille, Dumas, donc bon 37e anniversaire, monsieur Dumas. Puis c'est aussi le 4 juillet, la date approximative du passage de la planète Terre à son aphélie. Un petit peu de vocabulaire. L'aphélie, c'est le point sur l'orbite de la planète qui est le plus éloigné de l'étoile autour de laquelle la planète orbite.
Ah! Oh.
Hey. Bon,
je finis avec le prénom du jour, Berthe.
Oh, Berthe, c'est super. Moins dur à figurer que... C'était quoi, déjà?
Silver.
Blade of Steel. Ah! Fait que, à part voir Ted Cruz griller du bacon sur le canon d'un AR-15, je pense que c'est dur de trouver de quoi de plus américain que la guerre de sécession. Mais bon, j'ai pas de jeu à vous présenter pour parler de celle-là, fait que je vais vous parler de la guerre civile à la place.
Pourquoi pas?
Ben, tu sais, c'est une guerre, c'est américain.
Tu parles de Civil War avec Captain America?
Non.
Ah, okay. Il y en a une autre?
Beaucoup moins médiatisé. Fait qu'aujourd'hui, je vais vous parler du jeu North and South au NES. Publié par Kemco, la version NES, en 90. Le jeu est développé par Infogram, qui ont à l'origine développé le jeu pour Atari ST et autres ordinateurs, avant de faire la version NES. Fait que si vous vous rappelez, c'est le même setup que pour Rescue, donc publié par Kemco et développé par Infogram. Le jeu est un mix de jeux de stratégie tour par tour, très très board game, très très jeu de plateau, et de segments arcade. Je rentrerai dans le détail de ça bientôt. Le jeu se joue en solo ou à deux joueurs, clairement à jouer à deux joueurs, je vous en prie. Pas très intéressant single player, mais quand on entre à deux, donc un qui joue le nord et l'autre qui joue le sud, ça devient très intéressant. D'ailleurs, quand on choisit si on joue à un joueur un ou deux joueurs, le menu est très très PC. L'interface du menu principal, on a un curseur qu'on déplace à l'aide de la manette, puis qu'on choisit si le joueur 1 est un joueur humain ou un joueur ordinateur avec des niveaux de difficulté. Bref, c'est très PC comme interface. Fait que c'est un peu weird sur un jeu de console. Ça fonctionne très très bien, mais c'est inhabituel. Le jeu est excessivement drôle, oui, ce qui est étrange pour un jeu qui présente, on s'entend, la guerre civile américaine. Ça a fait que le jeu était un petit peu mal perçu en Amérique à cause de ça. Mais c'est que justement, ici, ils n'ont pas compris que le jeu est basé sur une série de bandes dessinées belges nommée Les Tuniques Bleues.
Ben oui. Écoute.
Ben oui.
On a l'air de pas réagir bizarrement, mais c'est parce que moi, j'étais un grand fan de ces BD-là quand j'étais flo. Puis tantôt, quand Mathieu finissait d'aller chercher 2-3 trucs pour préparer le segment, j'ai vu, hey, j'y connais ces dudes-là. Donc, ouais.
C'est ça, puis même moi je l'ai découvert en fait en faisant ma recherche, j'étais pas familier avec la série de bande dessinée, puis ça explique beaucoup justement, tu sais, oui, il y a un feel très très humour franco-belge là, de BD de Astérix et tout ça. En fait, la BD est même née dans la revue Spirou, donc on voit l'emballage, puis ça explique pourquoi c'est aussi ridicule, tu sais, comment t'en viens à faire un jeu de guerre avec un feel aussi funny. Ben, la v'là, t'as raison, la seule raison que tu peux avoir.
C'est une BD qui, ben, dans mon souvenir, était très drôle, dans ce style d'humour-là, là, tu sais, mais...
Ben, c'est oui. Ça. Fait que, bref, l'humour de la BD est dans chaque élément du jeu. Il n'y a rien qui se prend au sérieux là-dedans. Là.
Puis ça n'aurait pas été commercialisé avec un lien envers ça, pas du tout. Mais dans les affiches, dans les.
Non, mais... Ben, très peu. En fait, les versions PC, oui. Les versions sur ordinateur, en fait, Atari, etc. Parce que c'est des plateformes qui sont très populaires en Europe. Donc là, on avait plus un lien avec le jeu. Tandis que quand ça s'est commercialisé dans le monde, ils ont changé tout le art des pochettes, n'était plus du art des bandes dessinées. Fait qu'ils ont vraiment comme détaché de la série de BD. Puis, comme tout le jeu se prend au sérieux, ben on va vous faire entendre un petit bout de la musique d'introduction qui est évidemment très sérieuse. Sérieux.
C'est quand je dansais sur ma chaise.
Fait que pour revenir justement sur le gameplay du jeu, la première partie du jeu se présente, comme je disais, beaucoup comme un jeu de plateau, très très risque. Puis sur les versions ordinateur, on peut jouer seulement ce mode-là. On peut désactiver tous les mini-jeux arcade. Je sais pas pourquoi tu ferais ça honnêtement, mais ça rend le jeu plus stratégique, évidemment. Donc, dans cette partie du jeu-là, on voit une carte simplifiée des États américains concernés à cette époque-là. C'est excessivement simplifié. On a des unités de chacune des factions qui occupent les carrés. À chaque tour, on active toutes nos unités, puis on doit les déplacer sur un autre territoire, qui peut être un territoire qu'on possède ou un territoire qui est inoccupé, donc on le gagne automatiquement, ou sur un territoire qui appartient à l'autre faction, qui va déclencher un conflit. Mais sur la carte, il y a des territoires qui sont reliés par des chemins de fer. Et si on possède un des points d'arrêt du chemin de fer, à la fin de notre tour, il y a un train qui va se déplacer d'un point à l'autre. Puis s'il se rend à destination sans embûche, je reviens plus tard là-dessus, ça nous met de l'argent dans les coffres et si on accumule 5 sacs d'argent, ça nous donne une unité additionnelle, un renfort. Donc il y a un intérêt à avoir les stations. Puis plus qu'on a de points du chemin de fer, plus que ça peut devenir payant. On peut gagner 3 sacs à la fois quand on en a 3 ou plus, si je ne me trompe pas. Il est possible pour l'autre équipe, pour l'autre faction, de placer un... En fait, s'il possède un soldat sur un territoire qui est sur le chemin de fer, il peut tenter de prendre de faire un assaut sur le train puis de voler l'argent. Ensuite, sur les autres éléments, on peut activer ou désactiver qu'il y a des Indiens qui peuvent attaquer de façon aléatoire les territoires qui sont complètement à l'ouest.
Indiens comme dingue, là?
Oui, des Amérindiens, là. Des Amérindiens, mais bon. Hein, considérant l'époque, on va dire des Indiens. C'est thématiquement exact.
C'est dans le thème, c'est ça.
Voilà. Puis pour continuer à être encore plus raciste et inacceptable aujourd'hui, si on a le Nouveau-Mexique, il y a un Mexicain qui dort sur le bord de la frontière avec un sombrero sur la tête, puis de façon aléatoire, il va pitcher une bombe sur le terrain, puis il peut tuer une déguée, là. ça passerait très bien aujourd'hui.
Ça passe pas par là.
Et s'il y a quelqu'un qui contrôle la Caroline du Nord, à tous les temps de mois, il y a un bateau qui arrive, puis qui donne une unité additionnelle à celui qui possède ce territoire sur... La côte.
Non, mais ça m'étonne que Trump ait pas utilisé ce jeu-là dans sa propagande pour sa campagne.
Contre les Mexicains. Ouais.
Vous voyez, les Mexicains, puis j'ai des bombes.
Faut que le mur soit assez haut pour empêcher les Mexicains de pitcher une bombe par-dessus. C'est un vrai souci, faut prendre ça au sérieux.
Oui. Moi, je fais attention, hein, j'ai vu en déménageant Jeff hier qu'il y a un sombrero chez eux.
Ouf, je pense pas qu'il voulait que ça se
sache. J'ai des bombes sur le tour de 40.
Bon, on n'a pas les hommes à attendre chez nous à soir.
Bref, et la partie se gagne tout simplement si on possède tous les territoires ou on a tué tous les adversaires. En fait, qui est la même chose, parce que si tu as tous les territoires, tu as forcément tué tous les adversaires. Mais quand on rentre dans la version active, donc on élimine le côté board game, là, en fait, on rentre dans la viande du jeu, il y a plusieurs types de minigames qui peuvent arriver. Si on conteste on attaque une unité qui est sur un territoire, même si elle est sur une des forteresses, les forteresses où il y a les stations de train, on va toujours devoir affronter l'unité qui est là. C'est une bataille ouverte dans un champ. Là, on a une vue très, très éloignée, très, très distante. Là, les bonhommes sont miniatures. Chacune des factions a de la cavalerie. Habituellement, si on a une unité sur le terrain, là, ça va varier si on en a plus, mais de base, et la plupart du temps, on a 3 chevaux, on a 6 soldats d'infanterie et on a un canon. On peut juste les contrôler un à la fois. Fait qu'il faut changer de quel type d'unité on contrôle. Les chevaux ne peuvent pas vraiment arrêter. Une fois qu'ils sont lancés, on entend la charge de la cavalerie qui est donnée et ils avancent. On peut les faire aller plus vite, on peut descendre, monter. On peut les breaker, mais il faut les breaker activement. Donc, on tient la flèche par en arrière, puis là, les chevaux se lèvent sur leur patte en arrière, puis il faut les tenir, sinon, c'est sûr qu'on les lâche pas. Fait que si on change d'unité, ils avancent, puis ils avancent. L'infanterie se contrôle seulement quand on a le focus dessus, on les fait marcher, on les fait tirer. Le canon, lui, doit se charger. C'est très long. Faut qu'on tient le bouton, puis il y a un meter qui augmente, puis le meter dit à quelle distance qu'on va tirer. Fait que pour pouvoir tirer l'autre canon, qui est forcément à l'autre bout de la map et qui ne peut pas avancer, il peut juste se déplacer d'en haut en bas, c'est dur de tirer l'autre canon parce qu'il va devoir venir. Le joueur a le temps de changer d'unité puis de le tasser, puis bon, t'aurais réussi à faire. Fait, bref, il est très, très, très puissant, mais il est très difficile à utiliser de façon effective. Mais en mixant tous ces éléments-là, de lancer tes chevaux pour qu'ils commencent à avancer, de commencer à contrôler tes soldats pour forcer l'attention du joueur ailleurs, puis de commencer à craquer ton canon, puis là, il voit tes chevaux arriver, puis là, il est pas sûr. Bref, il y a une confusion. T'es très, très limité dans tes options, mais il faut que tu utilises la confusion que tu peux générer pour avoir une stratégie qui est efficace.
Tu as calculé tes APM, tes options par minute?
Chris, que non. C'est vraiment simple, puis ça ajoute au charme. Puis j'ai rejoué avec mon frère, justement, pour me préparer, puis les fous rires, là, c'est garanti. Là. Quand t'as un joueur que tout ce qui reste, c'est son canon, là, puis là, le gars, il arrive avec son infanterie, puis l'autre peut juste se tasser de haut en bas, puis c'est une guerre d'attrition. Là. C'est juste comme, bon, je vais-tu réussir à... craquer le canon juste assez longtemps quand lui va se tasser pour que le canon réussisse à péter 2 de ses soldats, qui ne changera pas grand-chose. Puis l'imagerie là, mentale de... T'as un dos avec un canon là, qui se tasse de gauche à droite puis qui tire un boulet de canon pour ramasser un soldat d'infanterie. Faut que tu y en veules en tabarnak. Là. Fait que c'est vraiment... C'est niaiseux, mais ça donne une variante intéressante puis ça te force à beaucoup tordre les mécaniques du jeu. Fait que ça le rend très intéressant. Quand on tombe dans les forteresses et les assauts de train, on tombe dans une vue side-scroller. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment unique comment c'est monté. Le soldat, l'unité qui attaque, c'est un soldat à pied, c'est juste un bonhomme. Puis c'est un tableau side-scroller où est-ce qu'il peut passer ou en haut ou en bas de l'écran. Dans la forteresse, c'est qu'il peut monter sur le mur puis il va descendre en bas. Il y a des obstacles, il faut qu'il avance. Mais dans le bas de l'écran, il y a une track où est-ce qu'on voit sa progression qui est illustrée par une petite botte. Puis il y a un cadran qui avance. Puis il faut qu'il se rende à la fin du tableau avant le cadran. L'autre joueur, lui, en haut de l'écran, il y a une dizaine, 10 ou 12, je ne me rappelle pas exactement, soldats que lui peut faire apparaître pour combattre le soldat qui attaque. Sauf que le soldat attaquant est indestructible. Il peut juste tomber à terre et être ralenti. Tandis que celui qui attaque, s'il mange un coup, il meurt. En fait, s'il mange un coup de poing, d'ailleurs, il revole de façon très, très Astérix. Là. Il se fait projeter dans les airs là, comme un soldat romain.
C'est comme ça, c'est rendu une, quelque chose que tout le monde comprend.
Ah oh, oui, c'est une référence. Oui.
Il revole façon Astérix. Ah,
non, oui.
Ah, okay. Il laisse ses souliers et il perd son casque. Voilà.
Non, mais il revole comme ça. Ce qui fait que ça devient une espèce de stratégie de dire « OK, où est-ce que le tableau est le plus cheap? Où est-ce que je peux spawner un de mes soldats, soit en haut, soit en bas, pour faire chier celui qui essaie d'avancer pour l'empêcher de rejoindre l'horloge? C'est un peu mal exécuté, c'est un petit peu niaiseux, là, mais c'est très drôle, puis il faut juste se l'empêcher de se rendre à la fin du tableau avant l'horloge. Sans quoi, le soldat qui attaque pique une crise. Il se met à terre à quatre pattes, là, puis il frappe le sol. Là, parce qu'il a échoué.
Ah, oh, c'est très drôle. Hein. Dans le fond, tu voudrais dire qu'il est...
Disappointed!
Excessivement.
C'est tous des enfants de leur Terrible 2 qui faisaient la guerre de Sécession.
Voilà. La
guerre civile.
La guerre civile, pardon. Voilà. C'est vrai, c'est Iron Man puis Captain America.
Fait que ça fonctionne. C'est ça. Fait que ça fonctionne de la même façon pour les assauts de forteresse.
C'est Iron Man qui fait sa crise.
D'adolescence. C'est la même mécanique pour les forteresses et pour les trains. Les trains, c'est triste que ce soit aussi dur de faire provoquer ces événements-là. Parce que c'est tellement le fun, le train. Parce que tu commences en bas du train, puis il faut que tu sautes dessus. Mais si l'adversaire te pousse en bas, tu tombes en bas du train, puis le train se sauve. Fait que soudainement, là, ta petite botte d'entrée qui est en bas, là, recule dans l'écran. C'est beaucoup trop cool comme tableau, mais c'est tellement rare à reproduire. Parce qu'en général, si tu peux placer un soldat entre les deux tracks de chemin de fer, tu aurais probablement eu intérêt à aller prendre le contrôle de la forteresse pour la traque de chemin de fer. Stratégiquement, ça fait beaucoup plus de sens. Mais encore une fois, je jouais avec mon frère, là, on faisait exprès, là. On va te placer là, on va pouvoir une guerre pour le train. Là. C'est tellement les meilleurs moments du jeu.
Mais tu peux-tu le rattraper si tu tombes ou c'est fini?
Ah oui, tu peux le rattraper, c'est ça, c'est qu'il y a des échelles sur le train. Fait que faut que tu sautes et tu t'accroches dessus.
Oui, mais tu recules.
C'est ça, fait que si t'es au... En fait, si au début du tableau, là, c'est des trucs stratégiques pour ceux qui joueraient à Northern South, t'as intérêt, si t'es celui qui défend, à le plus tôt possible dans le tableau, essayer d'aller attaquer le joueur. Parce que s'il est au début, tu cours moins vite que le train. Fait que si au début du tableau, tu réussis à faire coucher le joueur, c'est pas long qu'il perd le train, puis il a échoué complètement. Du moment qu'il est dessus, qu'il a commencé à avancer un peu, il tombe, tu restes à terre longtemps, par contre, mais tu te relèves, tu sautes, tu prends une échelle, puis tu continues. Mais en début de tableau, t'es fucked. T'es vraiment fucked. Fait que c'est ça, c'est les trois types de jeux, puis c'est ce qui fait que c'est un jeu vraiment, vraiment intéressant, parce que déjà que sur console, un jeu de stratégie tour par tour, c'est rare. Mm-hmm. D'en avoir un qui, en multijoueur, a autant de plaisir à être joué.
Puis on dirait qu'il y a un gros potentiel de rejouabilité quand tu joues à plus qu'un. Là.
Ah oui, c'est clair. Puis choisis aussi à quelle année le conflit commence, ce qui change la disposition des troupes. Mais ça rend le jeu excessivement unique d'un point de vue, surtout pour un jeu de console, puis même pour un jeu de PC, d'avoir un focus pas sérieux dans un jeu de stratégie tour par tour. C'est vraiment très, très, très unique. Il y a de la suite à cette histoire-là pour ce jeu-là. Ça s'en est pas arrêté là. Premièrement, c'est un des rares jeux sur Nintendo. En fait, c'est un des rares jeux, point, qui utilise le Konami Code, le code Konami qu'on retrouve dans tout le jeu, pour débarrer un test de son. Puis pour quelqu'un qui est un peu maniaque de musique de NES, là, il est assez impressionnant, le sound test. Il faut faire le Konami Code pendant l'intro, où est-ce qu'on a le générique d'ouverture, donc où est-ce qu'on voit le joueur de corps qui joue la musique. Voilà, qu'on a fait jouer tantôt.
Et ça, c'est.
Après le générique, quand on tombe juste sur le joueur de corps, on fait le Konami Code, ça nous amène au sound test, qui a vraiment l'air comme un système audio des années 80. Là. On a des aiguilles de VU, on a toutes les pistes. On voit même un clavier virtuel au bas de l'écran qui nous montre quelles notes on est en train d'être joué.
Ouais, c'est comme le petit clavier là, que quand la tune joue, là, c'est les notes éclairs, là, tu mets tes doigts.
Fait que c'est très, très impressionnant comme implémentation d'un lecteur musical au NES, puis du code Konami. Mais en plus, c'est pas un jeu qui a été oublié, probablement justement au fait qui est associé à une série de BD qui est à part en Amérique, bien sûr, qui a une super belle réputation et qui est bien connue. Au point tel que le jeu, en 2012, a été réédité pour appareils mobiles et pour Steam.
Ben voyons.
Il y a une version moderne. Jouez-y pas, par exemple. Oh, okay?
J'étais comme énervé. Là, puis je m'en avais...
Sur mobile, ça peut peut-être passer, à mon avis, là, mais sur Steam, c'est insultant. Là. C'est pourri. Il y a encore l'idée de la map stratégique. En fait, ils ont gardé tout le cachet du jeu. C'est des modèles 3D, vraiment des bonhommes de bande dessinée. Le jeu porte maintenant le nom de The Blue Coats, North vs. South. The Blue Coats étant, bien sûr, la version anglaise de Les Tuniques Bleues. Fait que le look du jeu est super beau. Les menus sont calqués sur la version originale. Beaucoup, beaucoup des petites animations, des thèmes musicaux, malgré que la musique n'est pas aussi bonne que celle de la version originale. Tout était très, très bien reproduit, mais les minigames ont tous été changés pour de quoi de beaucoup plus mobile, ce qui est une super bonne idée, mais qui fait que le jeu est un petit peu dilué, est un petit peu cheap.
Parfois caché.
Ouais, c'est ça.
Mais je trouve ça fun parce que pour un jeu NES, c'est rare qu'on voit, il y a quand même de la profondeur, puis il y a quand même de, t'sais, plusieurs mécaniques différentes, puis il y a plusieurs styles de jeu, puis c'est un peu asymétrique à certains niveaux.
Je vous ramène à Rescue.
Ben oui.
Je vous ramène à Rescue qui offrait comme plein de mécaniques de jeu différentes à même un jeu. Sauf que là, on rentre le côté multijoueur, puis oui, carrément, le côté asymétrique pendant les attaques puis les défenses. Qui est probablement une des raisons pourquoi on a autant joué quand on était kid, moi et mon frère, à ce jeu-là.
Mais c'est ça, il n'y a pas tant de jeux de NES que ça, que tu pouvais jouer autant, puis que c'était pas la même affaire tout le temps. Tu sais, des jeux multijoueurs, où est-ce que c'est pas juste t'as deux doux d'un en face de l'autre qui se tapent sa gueule de la même façon, au NES, non, là, ça. C'était rare. Là.
Mm-hmm.
Réflexion
sur la semaine. Donc, c'est difficile de parler des États-Unis du 4 juillet sans parler... des guns.
Ah, on a eu Broforce.
Broforce, des guns. Ça, c'est ma voix américaine, je pense. Donc, je pense, j'aimerais ça qu'on fasse une petite réflexion aujourd'hui avec le manque de temps des déménagements. Mais je vous invite à participer. J'ai beaucoup d'idées. J'ai
vous
beaucoup
à
de
la
recherches.
Maison, Alain. Ah ouais, parle.
Appelez-nous.
Ah ouais.
On attend vos appels.
Hey, c'est long, hein. C'est...
Donc, on va le faire.
On va faire juste nous trois, je pense, ça va être moins long.
Mais j'aimerais qu'on parle des guns sans parler de la violence dans les jeux. Je pense que le thème de la violence dans les jeux, c'est un thème qui est déjà surutilisé, suradressé un peu à gauche et à droite. Est-ce que ça a un effet, est-ce que ça n'a pas d'effet? Laissons ça aux autres à décider. Mais parlons des guns.
C'est que tu veux dire, c'est guns.
Ben,
il a joué à Overwatch dernièrement.
Mais justement,
il voit le cul d'un gun 20 heures par semaine.
Mais Overwatch, c'est un très bon exemple. Parce qu'en fond, parlons pas juste des guns, mais parlons de l'effet des armes. Okay, on va dire des armes à feu, des armes. Principalement des armes à feu. Pas les épées. On va s'en tenir aux armes à projectiles. Mais particulièrement de leur effet sur les mécaniques et le gameplay dans un jeu, en fait. Parce que c'est très, très différent qu'on soit de ce côté-ci ou de l'autre côté de l'océan Atlantique ou Pacifique. Finalement, ça revient au même. Finalement, qu'on soit américain one, ou c'est... japonais. J'ai réfléchi, j'ai fait quelques recherches sur c'est quoi la différence entre un shooter japonais et un shooter américain. Puis quand on revient à la base de la société japonaise versus la société américaine, on voit que ça part de loin. La société japonaise, qui a une grosse mentalité qui est basée sur le développement de soi, puis sur l'amélioration de ses compétences, puis où la personne est sacrée, qui tu es est sacré, puis tout ce que tu vas faire, tous tes outils, mais c'est une extension de toi que tu vas utiliser. Ça fait partie dans leur religion, dans toute leur vision, dans toute leur culture, ce thème-là va revenir. Puis ça se traduit dans des jeux comme Mega Man, par exemple, où son arme, c'est une partie... de lui, c'est son bras, c'est son arme. C'est pas une arme que dans ses mains.
Contrairement à ce que pourrait laisser suggérer Bebam, la couverture de Megaman 1, que le gars, il a un gun. Ouais.
Mais c'est pas vraiment Megaman. Mais là où Megaman, c'est son bras qui est son arme. On pense à Metroid où c'est un petit peu la même chose, des choses comme ça. Mm-hmm. Et où c'est l'accomplissement de soi, puis c'est la recherche de soi qui va être importante. Un jeu comme Megaman, un jeu comme Metroid, où à travers le jeu, tu trouves des power-ups, tu trouves tes morceaux pour t'améliorer, puis arriver à un point où tu vas être assez fort, assez accompli pour aller affronter ton némésis, aller affronter l'ennemi et vaincre le jeu. Donc, il y a toujours ce côté-là qui revient beaucoup dans ces jeux-là où l'arme n'est pas une fin en soi, mais c'est un outil que le personnage va utiliser dans sa progression. On remarque aussi que la plupart des shooters japonais vont être des shooters en troisième ou en deuxième personne dans side-scroller. Beaucoup de shooters où on va voir le personnage. Le fameux first-person shooter, donc le jeu de tir en première personne, c'est beaucoup plus américain. C'est le style de jeu qui est le plus développé en Amérique. C'est le style de jeu pour lequel c'est le plus facile de trouver des développeurs, de trouver des fans d'ailleurs. On a juste à penser aux franchises annuelles de Call of Duty, de Battlefield. C'est des jeux qui se vendent millions de copies, millions d'exemplaires.
À chaque fois,
à chaque année. Et qui sont attendus au E3, qui sont attendus puis qui sont... Cette année même, sans savoir qu'on parlait de Call of Duty.
On s'est
fait rickroller par Call of Duty parce qu'on tripait sur le jeu jusqu'à temps qu'il annonce que c'était Call of Duty.
On était comme, moi, peut-être l'essayer cette fois-là.
mais qui sont aussi des jeux qui sont fondamentalement ancrés dans la culture américaine. La culture américaine qui est un petit peu de toutes les guerres puis qui est de ce qui a mené à leur indépendance, qui est une culture basée sur les armes à feu. C'est une culture, c'est une société qui ont gagné leur indépendance grâce aux armes à feu. L'arme à feu qui veut pas être un peu l'emblème de la liberté américaine. Mm-hmm. Surtout qui est un sujet qui est extrêmement d'actualité aujourd'hui avec tout ce qui se passe, là, avec les attentats un petit peu partout.
Évidemment.
Donc, est-ce que c'est vraiment surprenant de voir que le jeu le plus populaire en Amérique soit un jeu dans lequel tous les personnages sont effacés puis on met seulement de l'avant l'arme à feu. Donc, on est en première personne, on est le héros. ça ramène un petit peu la mentalité ou le rêve américain du citoyen héros qui va prendre les armes et libérer son peuple, libérer sa nation. Donc,
il y a un parallèle facile à faire avec justement le côté de tous les films où est-ce que tu as un seul héros qui sauve le monde.
C'est
de l'empowerment, là. C'est de dire j'ai accompli ça. Fait que le first person, indépendant du gun, le jeu à la première personne se repose beaucoup là-dessus, là, sur le. Comment qu'il appelle ça? Bref, c'est de la projection. Tu prends le rôle du personnage.
Puis tu deviens le personnage. En effaçant le personnage, tu ne lui donnes pas un look, tu ne donnes pas, c'est pas comme Megaman, c'est pas comme Metroid, c'est pas quelqu'un, c'est toi.
Au moins, tu ne deviens pas le gun, ça fait.
T'as une chance. puis même les publicités des jeux sont faites comme ça, toutes les Call of Duty, vous êtes Be the Hero ou Get in the Action, ou tu sais, c'est vas-y, c'est toi. Puis les publicités là, de Call of Duty où c'est des joueurs là, qui se lèvent, qui sortent de leur salon, puis qui vont se battre contre des drones, puis des ennemis, puis c'est quand même très très violent, mais c'est en même temps très très américain. C'est à leur image, c'est comme ça, c'est sur ça que leur société est fondée. Mais quand au niveau gameplay, quand on regarde au niveau des jeux, c'est pas très riche comme mécanique, comme gameplay. C'est assez pauvre, c'est assez. Mais on comprend quand même l'attrait parce que c'est une satisfaction instantanée.
Mais ce qui est intéressant, par contre, si on le prend strictement un point. Mettons qu'on oublie que le gun, c'est un objet réel. Okay? Je dis, moi, je veux créer un jeu où est-ce que mon personnage a une arme qui lui permet de tirer à distance. Si on regarde comment on s'est approprié le gun d'un jeu, c'est vraiment intéressant parce que l'idée de devoir recharger devient une mécanique de jeu hyper intéressante. Parce que si c'était pas un objet réel, qui c'est qui aurait pensé à implémenter quelque chose comme ça? Ça devient un outil stratégique hyper important dans le design d'un jeu. Fait que ça, je trouve que c'est hyper intéressant, justement, de balancer la force d'une arme si un personnage a quelque chose qui est comme un magnum, là, pour faciliter l'image, que t'as peu de balles, mais à haut dégâts, à opposer à un fusil d'assaut qui a beaucoup de balles, moins de dégâts, donc tu recharges moins souvent.
Ouais, ça va amener une notion de choix dans ton arsenal, quelle arme tu veux utiliser à quel moment, puis laquelle tu as préférée.
Il y a une certaine...
ben, exactement, comme à Broforce, qui les différents personnages ont des armes différentes, puis de force. Broforce.
Merci.
Pardon, qui ça joue différemment. Mais ça reste des mécaniques qui sont toutes basées autour de ton arme. Puis souvent, la narrative du jeu va être portée à travers comme ça. C'est une satisfaction instantanée. Si on joue à un ordinateur, on pense à Call of Duty, le jeu. C'est quoi l'arme la plus populaire dans... Je disais que j'ai dit Call of Duty, mais je pensais à Counter-Strike. C'est quoi l'arme la plus populaire de Counter-Strike? L'arme qui est emblématique de Counter-Strike, c'est le AWP. C'est le fameux sniper vert olive. Parce que cette arme-là, peu importe où tu atteins l'ennemi, tu vas le tuer d'un coup, que ce soit dans une jambe, dans au corps ou à la tête. C'est une balle, un kill. Fait automatiquement, d'avoir cette arme-là, ça te donne une facilité. C'est je mets ma croix sur l'ennemi, je clique, c'est fini, on passe au prochain. Donc, satisfaction instantanée, qui, en quelque part, est un petit peu à l'image de la culture américaine.
Cheeseburger, AWP, même combat.
Exactement.
Merca.
Ça devient un petit peu pauvre en termes de stratégie, en termes d'implication du joueur dans le jeu. Puis ça devient très, très répétitif. On pense à des jeux où tu sais, des Call of Duty, on prend Gears of War, où on va passer des heures et des heures à littéralement tenir le bouton puis tirer des ennemis qui sont des éponges à balles. Quand on arrive dans des boss fights qui vont prendre 15 minutes, où c'est 15 minutes où tu tiens un bouton finalement sans arrêt. Pour
change de place. Puis
tu changes de place puis tu tires. Donc c'est simple. Mais c'est beau, c'est la cinématique. Il y a un côté, je comprends l'attrait pleinement, je suis un fan de First Person Shooter, j'ai joué à ça depuis les premiers. Reste que si on s'arrête à regarder les mécaniques, c'est quand même un petit peu pauvre. Mais je pense qu'il pourrait être mieux utilisé si on en limitait l'usage. Tu as mentionné justement d'avoir un 6 coups ou après 6 balles, il faut qu'on recharge, ça amène une limite. Je pense que c'est une belle comparaison encore entre les jeux japonais versus les jeux américains. Si on pense à des jeux de zombies, si on pense à un jeu américain, on pourrait penser à Left 4 Dead. Ou à Left 4 Dead, c'est run and gun, on court, on tire, c'est facile, il y a plein d'ennemis, c'est pas grave. On les tire toutes, puis on continue. C'est très, très arcade, si on veut. Puis, il n'y a pas vraiment de tension. La tension va venir sur le fait qu'on dit, bon, il y en a trop, on fournit pas, on finit par mourir. Mais c'est simple. Tu tires, puis tu as pratiquement des balles à l'infini. Si on se retourne vers un jeu plus japonais, on prend Resident Evil, par exemple, où là, oui, tu as des armes à feu, mais c'est pas la solution à ton problème. Souvent, tu vas t'enfuir. Souvent, tu vas prendre d'autres chemins pour éviter les ennemis. Il va y avoir des puzzles pour t'aider à avancer. Mais rapidement, tu peux pas affronter une horde avec surtout pas avec les premiers intervals,
avec
la précision, les contrôles. Mais reste que c'est deux approches totalement différentes de l'utilisation d'une arme à feu dans un jeu vidéo, dans un contexte qui est un petit peu semblable. Donc, limiter les munitions, c'est une façon, mais aussi rattacher une conséquence à une arme à feu, ça va être une façon de balancer le jeu puis de diversifier le gameplay. Si, par exemple, utiliser une arme à feu, ça sonne une alarme ou ça alerte des gardes. on pense à des Metal Gear Solid, des choses comme ça. Voilà. Exactement. Qui est, étrangement encore, un jeu japonais. Mais, donc,
puis pourtant, qui essaye tellement d'être américain là, dans sa façon de conter l'histoire puis de regarder tout ça.
Puis c'est souvent une trame. Les jeux qui vont être plus shooter, les first-person shooter japonais, vont mettre des Américains dans le rôle des protagonistes du jeu régulièrement. Parce que c'est un attrait peut-être plus à ce public-là, je sais pas. Mais c'est quelque chose qui se passe quand même. Donc, l'idéal, selon moi, c'est quand le gun, le fameux gun, n'est pas au centre du gameplay. Puis j'ai un exemple qui m'est venu en tête, qui est flagrant de ça, qui me ramène à un de mes jeux préférés, qui, incidemment, est un first-person shooter, qui est le premier Half-Life, l'original, qui est un jeu dans lequel on joue un jeu à la première personne, où on joue un personnage qui s'appelle Freeman. Donc on vient encore dans le thème américain. Et qui ne parle pas. Et que c'est un choix de design pour ne pas briser le lien avec le joueur, pour que le joueur ait l'impression d'être dans le jeu. Donc, jamais il prend la parole. Tout le monde s'adresse à lui comme étant de Freeman, mais jamais toi, tu prends la parole. Donc, on a tout ce côté-là du first person shooter américain qui est mis de l'avant, mais qui utilise les armes de façon intelligente. On pense au le boss fight où on se bat comme une tentacule géante qui est dans le fond de réacteur. Puis le tentacule est invincible. Donc, tout ton arsenal sert à rien. Tu ne vas pas gagner ce combat-là en tirant sur l'ennemi avec tes armes. Puis là, tu dois explorer le niveau qui est quand même assez complexe, un genre de sorte de labyrinthe, de beaucoup de platforming, pour finalement activer tous les produits chimiques que tu dois activer qui vont aller dans les tuyaux pour après ça allumer le réacteur puis brûler l'ennemi pour pouvoir continuer le tableau. Qui est une approche totalement différente où tes armes, dans un shooter, ne sont pas la solution. Puis ça te force à prendre un chemin alternatif à réfléchir. C'est une approche qui est souvent n'est pas mise de côté, souvent dans les franchises justement qui sont annualisées et les plus populaires. Mais il y a des jeux qui font quand même très bien. Si on pense à des BioShock, qui est un jeu qui a super bien passé, qui rajoute, malgré que ce soit un shooter comme les autres, ajoute tout plein de mécaniques, ajoute un environnement incroyable, va ajouter les dialogues, va ajouter des concepts intéressants.
C'est quelque chose qui va être beaucoup fait dans les jeux qui sont centrés sur un mode campagne puis un mode single player. Là, t'sais. Et c'est le genre de truc que tu retrouves souvent moins dans un jeu qui est centré sur le multijoueur.
Évidemment, parce que ton jeu est focusé sur l'expérience de base qui est tirée d'autres personnages humanoïdes qui peuvent te tirer.
Puis là, s'il y a des différences, ça va être balancé pour qu'il y ait une certaine
équipe. Oui, mais je vais me permettre d'amener un bémol à ça. Mais si on prend Overwatch, justement. Oui. Selon moi, Overwatch, c'est pas un jeu qui est basé sur les armes.
Tout à fait.
Overwatch, c'est un jeu qui est basé sur des personnages qui ont des personnalités, qui ont un rôle différent.
Mais enlève même la personnalité des personnages. Le gameplay se joue de façon pleinement différente.
Oui.
Puis le personnage est son arme.
Bon, malgré le fait que le mode compétitif vient de sortir, puis que les rewards, c'est des armes dorées, là. Je suis d'accord, parce que les armes sont pas non plus juste des fusils.
Aussi, fais juste remettre dans la mentalité que toi, quand tu joues à Call of Duty, tu veux les kills, tu veux le plus gros kill-death ratio. C'est même que les récompenses dans le jeu sont associées au nombre d'ennemis que tu vas tuer sans toi mourir. Ouais. Si on parle, j'ai un hélicoptère, j'ai un care package, je vais avoir une fusée spéciale ou un peu importe.
Piu, 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 piu.
C'est ça. Donc, plus tu tues de gens sans toi mourir, donc plus tu vas avoir des récompenses au niveau du jeu. Mais dans Overwatch, c'est l'objectif,
c'est la mission.
Oui.
C'est un de mes personnages préférés qui est Mercy, qui est un personnage qui a un petit fusil, mais qu'au bout de la ligne, le trois quarts du temps, tu es sur son autre arme qui est un staff qui heal.
Puis le nombre de kills que tu fais dans le jeu est secondaire à la réussite ou non de ton équipe. Puis même que la statistique est cachée, là, elle n'est pas évidente à voir. Puis elle est parmi tant d'autres statistiques qui sont mesurées, comme le combien tu as guéri, combien tu as bloqué, combien tu as été sur l'objectif pendant le temps. Fait que c'est pas ça l'attrait du jeu. C'est là, puis j'ai rien contre ça. Mais on peut faire plus.
Puis je vais ajouter Splatoon. Où est-ce que le but du jeu, c'est de contrôler, de peinturer le plus grand pourcentage de la carte de ton équipe
adverse. Splatoon, qui est peut-être le seul et unique jeu que j'ai une chance de faire jouer à ma blonde de ce style-là, parce que les armes, elle a eu ça pour mourir. Là. Mm-hmm. Mais Splatoon, quand j'en ai parlé, elle dit ça pourrait être le fun.
Quand tu te prends avec un Super Soaker, des rouleaux de peinture et un zapper de NES, là. C'est les armes qui tirent de la peinture.
Puis c'est génial. Puis c'est d'ailleurs Splatoon qui m'a fait réfléchir à ça. Puis on parlait de trouver des jeux par rapport au 4 juillet. Puis je me suis dit, par rapport au 4 juillet, je peux parler de Gun, parce que c'est très, très américain. Puis automatiquement, quand je me suis mis à réfléchir, je me suis dit, Splatoon, c'est un shooter, mais t'as pas de gun. Puis t'as toutes les mécaniques d'un deathmatch, puis d'un jeu multijoueur shooter, mais où le but du jeu, c'est pas de tuer les autres.
C'est con comme phrase, mais c'est weird qu'il n'y ait pas plus de FPS, de first-person shooter, qui sont pas juste des shooters. c'est weird que ce soit un genre qui soit aussi renfermé sur l'idée de traîner un gun puis de tirer du monde.
Des quand first person faire... games,
exactement.
Autre chose,
c'est ça, c'est tellement limité. T'sais. Ok, ben, j'inclus là-dedans les RPG, fait que même si c'est pas un gun, c'est un épée, mais t'es tout le temps en train de varger du monde en première personne, puis le but est toujours de tuer l'ennemi pour progresser. Bon, ça c'est ta propre... c'est plein d'autres jeux qui ont le même défaut, là. Mais Splatoon est un shooter, t'as intérêt à tuer l'adversaire, mais le but c'est pas ça. Puis c'est vraiment pas la solution qui va te faire gagner. C'est un outil dans ton arsenal.
Puis il y a d'autres jeux comme ça là, qui basent pas. T'sais, on pense à Tron. Il y avait le premier mode de Half-Life 1, justement. Là, j'ai oublié comment il s'appelle. Le Tron Disc, finalement, là, où il faut que tu fasses tomber l'autre dans le
Ricochet,
dans...
je crois.
Ouais, c'est ça, Ricochet, ouais. Exactement. On a tellement joué à ça dans des, mm-hmm. dans des LAN parties. Puis le but du jeu, c'est jamais d'attaquer l'autre. Tu attaques le sol en dessous de lui juste pour le faire tomber. Ça reste un shooter, ça reste les mêmes mécaniques, ouais. Les mêmes contrôles, mais juste en changeant la perspective puis en enlevant l'idée de tuer les autres joueurs, le jeu ne devient pas moins intéressant pour autant. Mm-hmm. Je pense que quelque chose, je pense que c'est un statement qu'il faudrait que certains développeurs apprennent ou peut-être mettre plus de l'avant. Puis c'est loin de disparaître, les shooters ne vont pas arrêter, surtout avec l'annualisation des franchises comme Call of Duty, comme Battlefield. C'est Battlefield 1, le prochain Call of Duty, Infinite Warfare, c'est partout, on n'a pas fini d'entendre parler. Mais espérons juste que les développeurs vont au moins être capables d'adapter un petit plus, d'amener un peu plus de diversité finalement dans ce style de jeu-là, dans le futur.
C'est comme dans le thème. Hein? avec notre thème du podcast aujourd'hui, je me cherchais quelque chose qui pouvait être complémentaire à ce que mes deux autres bozos allaient parler.
Allô?
Allô. Je me suis dit, tiens, j'ai un de mes jeux préférés qui commence avec ton personnage qui est le président des États-Unis. Hein? Fait que ça compte. C'est pour ça que j'ai rejoué à Saints Row 4. Fait que pour ceux qui n'avaient pas suivi, là, je parle de Saints Row 4. Si vous n'avez pas joué, puis que vous aimez les jeux open world, style Grand Theft Auto, avec un humour décapant, des sujets définitivement not safe for work, là, ben go, allez jouer à ce jeu-là, ça vaut la peine. Mais là, je me suis dit, ouais, tu veux dire quoi, là, à part faire 2-3 jokes de dildo, puis de dubstep? T'sais, le bout drôle de ce jeu-là, c'est vraiment plus d'y jouer. Les gags sont dans le jeu bien plus que de ce que je pourrais dire. Donc, ça marchait pas. Je me suis dit que c'est quand même pas commun dans un jeu, oui, que ton personnage soit le président des États-Unis. Ça doit arriver quand même de temps en temps que le président soit un des personnages non-joueurs du jeu. Donc, c'est ma petite compilation ici personnelle et vraiment non complète des apparitions du Most Powerful Man in the World.
Le POTUS.
Hein?
Le POTUS.
Dans le jeu vidéo. Dans les jeux vidéo, oui. Je commence avec deux jeux dans lesquels le joueur incarne vraiment une version fictive du président. Fait que je peux quand même pas passer à côté du jeu qui a inspiré ma chronique, Saints Row 4. Dans Saints Row, le jeu commence avec... alors que dans le fond, tu es en train d'infiltrer un repère de terroristes. Infiltration qui se termine là, pendant que tu dois rider un missile nucléaire en plein vol pour le désamorcer sur le thème musical. Le jeu commence de façon assez épique.
Je peux pas craindre, j'ai pas joué.
Mais tu sais, c'est vraiment ça. Puis là, les gens ils te disent t'es vraiment. Ta gang, mettons, dans ton com, te dit t'es vraiment hot, tu te suicides pour. Pour donner, tu te suicides pas pendant tout, tu te pitches en bas du missile, rendu à la fin, il explose dans les airs pendant que tu tombes, puis t'atterris dans le bureau ovale.
Bien sûr.
Donc, le chef du groupe criminel de Third Street Saints est maintenant président des États-Unis. Puis ça suit vraiment la trame narrative des autres jeux, là, où est-ce que tu deviens comme une gang super puissante. À la fin du 3, là, t'approches du pouvoir. Puis dans le fond, dans le 4, tu commences, tu es là. Puis maintenant, le président des États-Unis, ben, pendant une conférence de presse, la planète se fait attaquer par des aliens qui kidnappent les plus importantes personnes de la planète pour les placer dans une simulation style Matrix.
Bien sûr.
Ça, c'est Saints Row 4. Puis ma réplique préférée du jeu, du président, en fait, ou de la présidente, là, parce que tu peux jouer les deux, c'est quand même le fun. Pendant l'attaque, qui dit « Je leur avais dit que je voulais des armes dans chacune des pièces de la Maison-Blanche. » Donc voilà, genre, sans aller plus loin dans le jeu, parce qu'après ça, c'est comme un jeu qui est vraiment cool à jouer, mais qui n'a plus tant de rapport avec les États-Unis, parce que la planète se fait détruire dans à peu près les premiers deux heures de jeu. Là. Mais un bon jeu. Faut vous dire, j'ai quand même fait les deux fois le 20 heures que ça prend à faire le tour. Là. un peu dans la même catégorie de ce genre de jeu-là où tu incarnes un président, Sam & Max Save the World. jeu d'aventure épisodique de 6 épisodes de Telltale Games. Donc, pour ceux qui connaissent un peu le style, c'est vraiment un jeu qui raconte une histoire dans lequel tu interagis avec les personnages, t'as des... mais c'est vraiment une histoire qui est racontée. Dans le 4e épisode, Sam et Max sont appelés à la Maison-Blanche pour enquêter sur les agissements erratiques du président. Hein, il a, par exemple, mis en place des câlins de groupe obligatoires pendant les événements sportifs. Donc, en enquêtant puis en décapitant accidentellement le président, les héros se rendent compte que c'est un robot. Puis ça provoque une élection impromptue qui oppose un robot géant d'Abraham Lincoln et le plus proche opposant disponible qui était Max.
Le plus proche opposant
disponible. Max gagne l'élection en représentant le parti de la violence aléatoire et de la destruction, là, le Random Violence and Destruction Party, et en sabotant les cartons de discours de Robot Lincoln.
Max, c'est le lapin blanc.
Ça? Ouais.
C'est clair que c'est le lapin psychopathe.
Fait que là, tu deviens, pour le reste de l'histoire, le président des États-Unis. Je continue avec une série d'apparitions là, de vrais présidents dans des jeux. Le premier, un classique peut-être, une des apparitions présidentielles les plus connues. Hein, depuis 1993, on retrouve dans les versions de NBA Jam des personnages cachés. Dans NBA Jam Tournament Edition, on pouvait, là, en rentrant certaines initiales puis une combinaison de boutons, là, je dirais merci Nintendo Power à l'époque, on pouvait débloquer Bill Clinton, qui était à l'époque président, et la première dame... Hillary Clinton, ainsi que le vice-président Al Gore.
Il n'y a rien comme Al Gore qui te slam dunk ça de 60 pieds dans les airs.
J'avais déjà parlé dans une réflexion dans les premiers épisodes, genre 2, 3, back in the day.
Comme pas de notes de cette époque-là. Hein, quoi de mieux qu'une bonne game de basket là, contre les Lakers de Los Angeles pour reposer d'une longue journée de politique? Hein? Dans la version 2010, le concept est revenu. On peut jouer à ce moment-là le président du moment, hein, puis qui est encore président aujourd'hui, là, M. Barack Obama, qui joue dans l'équipe des démocrates avec le VP Joe Biden, le retour des légendes du basket, Bill et Hillary Clinton.
Nice.
On peut aussi
passing the torch.
On peut aussi débloquer l'équipe des Républicains avec Sarah Palin et l'ancien président George W. Bush.
Elle a tellement un bon lancer, là, elle peut te faire un dunk à partir de l'Alaska. Bon, c'est pas vraiment c'est où, mais pour le reste, ça marche.
Si vous trouvez que le basket, c'est trop relax, comme pour un président des États-Unis, on peut essayer la boxe dans le jeu Ready to Rumble Round 2. Qui est sorti là, sur Dreamcast, PlayStation, PlayStation 2, 64 et Game Boy Advance. On peut débloquer Mr. President, qui rock un look là, Apollo Creed avec des shorts avec un drapeau aux États-Unis. Là,
yes, sir.
Qui est incarné encore une fois par M. Clinton, qui est, je pense, un des personnages préférés des développeurs de jeux vidéo. Puis The First Lady, qui est avec un beau petit saut de classy, Madame Clinton. Donc, on peut décider de se taper sa gueule avec ces personnages-là dans Ready to Rumble 2.
Est-ce qu'on peut se battre un contre l'autre?
Si probablement.
Non.
J'ai pas regardé, là. En fait, je connais tellement pas le jeu que je sais pas si c'est un jeu multijoueur.
Oui.
Donc, probablement que oui. Sortons de la réalité un petit peu. Hein, parce que, tu sais, c'est vrai qu'on pourrait mettre des gants de boxe à des présidents. On l'a genre, quand même déjà vu avec un futur premier ministre là, à l'époque.
Qui aura même une apparition en tant que boxeur dans une BD de Marvel.
Yes, avec l'Alpha Flight.
Ouais, ouais.
Comme boxeur, je savais pas que ça allait être comme boxeur.
Oui, ouais, ben, l'image qu'on a eue à date, il était assis dans un coin de ring avec son soude.
Mais on se rappelle que son père a fait l'apparition aussi avec un soude vert.
Ça a probablement inspiré le retour.
Voilà. Mais sortons de la réalité quand même, parce que ça, c'est la réalité, ça a l'air. Pour voir ce qui se passe du côté du Nintendo 3DS dans le jeu Codename Steam. Le jeu Codename Steam, dans ce jeu-là, en fait, on peut incarner Abraham Lincoln, à qui Will Wheaton donne la voix, qui pilote un mec géant qui se transforme, qui fonctionne par machine à vapeur, hein, Steam, t'sais. Puis un bateau volant, hashtag Cyberpunk Lincoln, ça a l'air, pour combattre les légions de Cthulhu dans le monde magique de Oz, hein, aidé par d'autres personnages comme Tom Sawyer, Tiger Lily, là, qui vient de Peter Pan, puis le lion, l'épouvantail et Dorothée du magicien d'Oz.
Codename Steam.
Codename Steam, ça a l'air écœurant.
Non, c'est quand même sympathique.
Oh, juste pour ça, ça vaut la peine.
C'est un turn-based strategy game.
Ouais.
OK.
Ah non, c'est la présentation est folle.
Bref, ouais, combattons les légions de Cthulhu. On change un peu de style de jeu. On va aller shooter des zombies dans Call of Duty Black Ops, justement, où on pouvait voir l'ancien président JFK et Richard Nixon qui travaillent ensemble avec Fidel Castro. Puis en fait, ils croisent fréquemment le chemin du personnage principal à ce moment-là dans sa quête pour détruire les zombies, puis ça mène même à une mission là, où les trois se retrouvent à même place. C'est un peu n'importe quoi. Donc, ouais, dans ce même genre de collaboration improbable-là, on la retrouve dans un petit jeu indépendant de Team 2-Bit, le jeu Regan Gorbachev. Dans le jeu, c'est un jeu de coop, dans le fond, à deux joueurs. Là, on peut jouer tout seul, mais on peut jouer à deux joueurs. Ça a l'air que même tout seul, c'est assez bien parce que tu changes souvent de personnage. Puis, bref, un genre de dual stick shooter où les deux ennemis de la guerre froide doivent coopérer pour se sauver des terroristes qui les ont kidnappés. Donc, c'est possible de la jouer très, très action ou très stealth, si on veut. Là. C'est sérieusement un jeu qui semble quand même le fun. Puis, même avec une prémisse assez weird, là. quand même. Apparition du président Nixon, qui, dans le jeu, là, semble un solide badass ninja. Ça ressemble un peu dans le gameplay à Hotline Miami, là, dont j'avais déjà parlé. Parce que, tu sais, c'est très rapide, l'action, mais aussi, tu peux stealther un peu. Le même genre de vue de haut aussi, où tu te déplaces, puis où tu joues avec Reagan et Gorbatchev. Gorbatchev, ton personnage, il a vraiment une solide grosse tache de vin, là. C'est n'importe quoi. donc, ouais, un peu comme Hotline Miami, avec moins de drogue puis de masque bizarre, là. Mais ça a l'air bon, là. Ou pas. Prochaine apparition que j'ai notée dans un jeu dont j'ai très brièvement fait mention, là, il y a deux épisodes, le jeu Day of the Tentacle. Hein, dans ce jeu d'aventure-là de LucasArts, qui est sorti en 93, trois amis se retrouvent coincés dans le futur, dans le passé. Hey, ils se retrouvent coincés dans le temps. Ils ont copié Temporaline, qu'eux autres. Donc, ils se retrouvent coincés un peu partout dans le temps pour puis doivent essayer de faire échouer les plans de domination mondiale de la méchante Purple Tentacle. En faisant ça, un des trois amis rencontre là, le président George Washington et le futur président à ce moment-là, là, Jefferson, qui sont en train d'écrire la Constitution des États-Unis.
Ouais, on est vraiment là, toute la section du jeu qui se passe à cette époque-là est toute tournée alentour de l'indépendance américaine. Là.
Voilà. Donc, très thématique pour aujourd'hui. Thème. Mm-hmm. Peut-être qu'on devrait en profiter aussi pour leur dire, en même temps, à ces gens-là, d'exclure explicitement le second amendement. Hein,
Tant qu'à être là.
Tu leur dire, d'écrivez pas ça. Excluez-le explicitement. Non, c'est pas une bonne idée que tout le monde puisse porter une arme. En tout cas, éditorial. je reste dans la thématique quand même avec un petit clin d'œil à un jeu d'edutainment.
Oh.
Ouais, ouais. Mario's Time Machine.
Ouais.
Dans le jeu, dans cette version de Mario, notre petit plombier moustachu préféré se promène dans le temps pour réparer des problèmes temporels.
Ça n'en sortira pas.
Non. Dont, entre autres, une copie manquante de la Déclaration d'indépendance, hein, qu'il retrouvera et remettra à son bon ami, Thomas Jefferson, qui lui dit, hein, de continuer comme ça, que peut-être un jour son visage sera gravé dans une montagne.
Life goals.
Avouez quand même que ce serait drôle que la face de Mario soit dans le mont Rushmore à côté des autres. T'sais.
La moustache cacherait deux gars d'à côté.
En attendant, on peut se contenter d'étirer sa face dans Mario 64. Là. C'est presque pareil. Je finis ça avec un oldie but goodie, comme on dit. Hein? Bad Dudes versus Dragon Ninja. Bad Dudes, deux versions du jeu. Version arcade, version NES. Dans Bad Dudes, le président se fait enlever par des ninjas. Hein, puis c'est au joueur d'être assez bad dude pour le sauver. Et c'est vraiment ce que ça dit au début.
C'est la première entière du jeu.
Ouais. Après cette très courte intro, hein, où on dit pas mal ce que j'ai dit. Voilà.
Are you a bad enough dude to save the president?
Non, mais je suis un bro, par exemple.
Bad enough bro?
Bad bro. Donc, tu te retrouves là, dans un espèce de beat-em-up où tu t'approches des ninjas, hein, pour tenter de sauver le président. Le président peut être Ronald Reagan dans la version arcade, George Bush dans la version NES. C'est pas le même président.
Ouais,
il change absolument rien. Il y a pas, peut-être qu'ils ont des petites différences visuelles, là, mais c'est pas... Ouais. Si tu réussis, à la fin, on va te rendre à la fin du jeu.
Yes!
Il y a un hélicoptère qui débarque, puis le président sort de l'hélicoptère, puis là, ton personnage drop ça. Porte attention au bruit d'hélicoptère au début du son aussi. Traduction, I'm bad!
Terrible.
Puis après ça, tu te sens soudainement hyper patriotique. Puis t'as le président qui te dit: Hey dudes, thanks for rescuing me. Let's go for a burger! Ha 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 ha! C'est. Puis là, ben, t'as le générique qui défile sur la même toune que je viens de faire jouer, avec la Maison Blanche en arrière-plan, toi puis le président en avant, puis un générique qui défile dans le ciel.
Avec un F-16 qui passe, il défile l'artifice.
Non, manque.
Il n'y a plus d'espace à la question.
C'est ça, il manquait de place. Ouais, fait que...
Non, littéralement au-dessus de ta maison.
Ah, ok. Ah, okay. Ouais, fait que quand t'es un bad enough dude, tu peux manger un burger avec le président.
Hashtag life goals.
C'est ça. Deux petites mentions spéciales dans la catégorie jeux patriotiques, parce que je m'étais un peu en lien là-dessus au début, je manquais un peu de stock. Premièrement, un jeu dont on a parlé récemment, America's Army.
Ouais. Mm-hmm.
Ouais. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série de jeux développés et publiés par l'armée états-unienne. L'ami. C'est une sorte de recrutement virtuel, finalement. Là. Bref, la mention est pas mal plus parce que je suis tombé par hasard sur le fait qu'en 2007, ils ont sorti une version arcade avec les light guns et tout. Puis j'avoue que je jouerais quand même si je tombais dessus. La version avec les light guns.
Sauf que là, c'est vrai que si tu fais un high score on the spot, il t'embarque dans un chopper puis il t'amène...
un burger avec le président.
Ah, voilà. Mais trouvez-moi une machine.
Ensuite, ben vous savez quand même, j'aime tomber sur les jeux gratuits qui sont weird sur les internets web. Là.
Oh, tout est cheap.
Je vous présente le jeu Americlap. Et non, Americlap n'est pas un jeu sur la propagation de la gonorrhée, hein, qu'on appelle aussi le clap, mais plutôt sur le jeu le plus patriotique qui existe. Le but du jeu, applaudir le drapeau états-unien le plus fort possible pour l'empêcher de se rendre au sol, tout simplement. Bon, j'avoue que ça marche moyen avec un micro de qualité qui bloque les bruits ambiants comme ceux qu'on utilise parce que je l'ai essayé puis j'ai comme toffé 2 secondes. Là.
Oh, mais faut que tu joues avec beaucoup de monde qui applaudissent en même temps.
C'est peut-être ça. Ou parce que peut-être que je n'étais pas assez patriotique. Ça fait que selon le jeu, là, je déteste la liberté. Puis on m'a même affiché, ça s'est marqué You Hate Liberty, puis en dessous, il y avait un drapeau de la France. Là. Point bonus pour le jeu, hein, peut-être le seul que je puis donner. La chanson pour le menu, hein, c'est un grand classique qu'ils ont comme volé ailleurs finalement.
Yes.
C'est le thème de WWF Royal Rumble au Mega Drive. Ouais, fait que en plus.
Mais comment tu sais ça, Dan? Ça pourrait dire que tu fais des jeux de lune.
Ouais, pas à celui-là.
Ah, ok.
Il disait vraiment sur. Tu sais, ils ont beau voler le thème, ils marquent quand même le. Voilà. Donc, ben, un joyeux 4 juillet à nos 4 auditeurs des États-Unis. Hein. J'ai comme juste le goût de dire « I'm bad
». Good show!
Donc, un petit teaser avant d'arriver dans notre outro habituel. Il reste 2 épisodes avant qu'on fête officiellement notre première année de Divan Questing. Hey. On aura une annonce à vous faire. Hein? On vous dit pas quoi tout de suite. On garde le mystère.
On vient d'annoncer une annonce. C'est que c'est quelque chose.
Ça, c'est quand tu fais du podcasting. Là. Quand tu annonces une annonce parce que tu es rendu big. En tout cas, ou pas. Donc, pour trouver les derniers épisodes de divanquest.com, pour du feedback, du hate mail sur Twitter au twitter.com/divanquest, sur Facebook au facebook.com/divanquest, par courriel au divanquest@gmail.com ou à grosse_arnaque@caramel.com. Le podcast est disponible avec un paquet d'autres podcasts sur le www.rzweb.com, dans la playlist de Pod Québec aussi au podquebec.com. Allez sur iTunes, commentez, cliquez les 5 petites étoiles, faites comme, ben, personne encore, là,
on s'ennuie, là.
On s'ennuie.
Il semble qu'il y a d'autres qui nous aiment, qui devraient écrire.
Ouais, quelque chose. Ouais, quoi, I'm bad.
Calé qu'on vous donne des jeux, pis tout. Aimez-nous!
Attends un peu, là. Juste pour ça, ça mérite une punition.
Merci.